so Hey, comment ça va? Vous, en ce... Ma casquette. C'est où? C'est le week-end, là, quasiment. Vendredi 14 mars 2025. Est-ce que vous sentez ce parfum de week-end dans l'air? Ce parfum de printemps, peut-être? Je sais pas, la météo dans les prochains jours, là, ça arrive ou pas le... Est-ce qu'on peut envoyer de la force à... C'est l'image dans le chat là. Ça nous est tous arrivé, ça nous arrive tous, ça nous arrivera tous. Voilà. Des petits soucis. Pas sur le coup, on considère ça comme des gros soucis, puis un jour on se rend compte que finalement ça allait. De cœur, tout ça. C'est l'image, on t'envoie de la force. On passe tous par là. Voilà. Puis un jour on rencontre la bonne personne, t'inquiète pas. Si ça s'est pas fait là, c'est que c'était pas la bonne personne. La météo. Du coup, pas la météo du cœur, mais la météo des prochains jours. Alors, ça donne quoi? Ça donne de la lumière, ça donne du soleil. Force l'image, t'inquiète. Croisons un vieux papy. Si cette histoire s'est pas faite, c'est que c'était pas l'histoire qui devait se faire. Et tu trouveras une histoire beaucoup plus belle. Alors la lumière, oui. Oh, je vois que les températures remontent. À partir de ce week-end, là, tu as pointé à 15 degrés, je parle de Paris, la semaine prochaine, là. Puis après, ça redescend. Bon. Mais de la lumière, c'est déjà pas mal. J'ai trouvé ton sosie, c'est Jean-Paul Marat. Grimalis. Alors moi, jusqu'ici, je pensais que mon sosie, c'était Brad Pitt. Est-ce que Jean-Paul Marat ressemble à Brad Pitt? Jean-Paul Marat. Donc, ah, Marat le révolutionnaire. Quoi, comment ça? Il y a un autre qui a un air? Ah bon? Il y a un truc? C'est pas le mec qui était assis dans sa baignoire? Comment ça, tellement vrai? Un truc, il y a un truc? Si ça se trouve, je suis. Si ça se trouve. Si cela se trouve, je suis. Ça ouvre. Oh, ça ouvre des trucs bizarres, là. Si ça se trouve, je suis un lointain descendant du révolutionnaire Marat. Incroyable. Il y a un truc. Il y a un mini truc. Ok. Bon, vous, ça va quand même? Merci le Croix-Roussien pour ce troisième mois. Merci Arthur Ezio pour ce 23e mois. Merci Frisketosaur, qui je crois était le premier à sub ce matin. 33 mois. Il présentait question pour une révolution. Joli. Mélissa, j'ai vu tes messages, Mélissa. Alors, Mélissa, tu es une étudiante en journalisme qui m'a envoyé des messages ce matin et qui me demande si je peux faire une interview d'ici lundi. Alors, dans un monde idéal, dans le meilleur des mondes, je te dirais oui, bien sûr. À une époque, quand j'avais du temps pour moi, que j'étais journaliste d'ailleurs, je présentais le JT, des choses qui finalement ne me prenaient pas tant de temps que ça. Je consacrais beaucoup de temps à répondre aux sollicitations des plus jeunes que moi, pour des interviews, pour accompagner des stagiaires de troisième, tout ça, j'adorais faire ça, parce que la transmission, c'est extrêmement important. Mais ça, c'était avant. C'était avant que je m'oublie et que je m'abîme dans le travail et dans plein d'aventures aussi passionnantes que chronophages. Donc aujourd'hui, il y a Question pour un champion, il y a Twitch qui me prend un tout petit peu de temps, slash beaucoup, il y a les enfants, et je réponds en fait plus à aucune sollicitation. Voilà, parce que des propositions sympathiques comme celle-ci, j'en ai... 3, 4, 5 par jour. Donc, c'est matériellement pas possible. Elles sont toutes pertinentes. Hein. Et donc, je les vois. Je suis triste parce que j'ai même pas le temps d'y répondre. J'en suis confus. Peut-être qu'un jour, j'aurai plus de temps et je pourrai à nouveau consacrer un peu plus de temps à ce genre de sollicitations qui sont très pertinentes par ailleurs. Merci, Mélissa, de la compréhension. C'est adorable. C'est gentil. Merci. Je vois ton petit mot. Merci, Alexandra Hergé, pour le troisième mois. Merci. Merci, merci. Surtout à cause de Valo. On joue plus à Valo aussi, c'est fini. Alors, je suis en train de bouffer le fil de mon truc là. Hier, on s'est fait un petit stream GTA. GTA 5 mode histoire solo qui était bien cool. D'ailleurs, je donne quasiment plus d'interviews non plus à mes confrères journalistes. Je reçois beaucoup d'invitations. Il y a un truc que je reçois beaucoup, c'est des invitations à des colloques, à des séminaires, à des réunions, à des congrès, à des tables rondes pour parler de Twitch. Alors le mail est toujours à peu près le même. Oui, Samuel Etienne, bravo, félicitations, je vous suis. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt la transition que vous avez opérée entre les médias traditionnels et ce que certains appellent les nouveaux médias, mais qui sont déjà anciens. Est-ce que vous voudriez bien participer à une table ronde tel jour, dans telle ville, c'est rarement à Paris d'ailleurs, pour telle université ou telle entreprise ou telle, voilà. Et c'est pareil, c'est très sympathique, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'en ai pas le temps. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Il faudrait que j'arrête. Alors, ils ne m'ont pas donné tellement le choix, le journal Le Monde. C'était, en fait, ils le faisaient avec moi ou ils le faisaient tout court. C'est une autre façon de faire de... Bref. Et en fait, pour répondre à cette sollicitation, il faudrait que j'arrête de travailler. Et dans quelques années, du coup, les demandes d'interview, ce serait Samuel Etienne, vous avez complètement disparu de l'univers professionnel, vous avez arrêté Question pour un champion, vous ne streamez plus, je crois que vous avez même abandonné votre famille. Pourquoi ? Ben, pour répondre aux interviews et aux sollicitations. Donc, c'est dommage, mais... Je pense qu'il vaut mieux faire que de parler de ce qu'on fait. En plus, de toute façon, parler de ce que je fais, je le fais ici, et c'est ce qui est quand même le plus sympa. Quoi. Bon, comment ça va, vous ? Quelqu'un a réussi à voir l'éclipse de la lune de son ce matin, je sais pas, vous savez qui, mais hier soir, je me promenais avec mon épouse hier soir, et on a vu une lune. Je sais pas si c'est la pleine lune ou quoi, mais une lune dans le ciel au-dessus de Paris qui était juste incroyable. Salut Camille. Salut de cette scène. Alors Étienne l'a vu ce matin avec les enfants. C'était à 7h du mat l'éclipse, d'accord. C'était beau. Hardro Gamer, Samuel, je t'ai invité pour une soirée fondue savoyarde, n'hésite pas à me répondre. Tu n'as pas loupé le journal, Josh, on vient de lancer le stream. 12 minutes de stream. On est parti pour 3 ou 4 heures, là. À l'aise. Tu as de ta retraite. Longtemps, j'ai idéalisé ce temps de la retraite, comme beaucoup de Français. Ce temps où j'aurais du temps pour moi, pour lire, pour rêver, pour réfléchir, pour aller au cinéma, pour passer du temps avec mes proches. Puis je me demande finalement si on aura encore une retraite finalement. Et s'il ne va pas falloir garder une forme d'activité... quasiment tout le temps, ça, je sais pas, quand tu vois les débats sur les retraites. Bonjour jeune streamer, goat de Twitch, roi de Valo, Nyx, tellement gentil. Cette Tsubasa se moque de moi. Du temps, les retraités sont ceux qui ont le moins de temps. Oui, parce qu'il se lève à 5h du matin pour faire la queue devant la charcuterie à 7h du matin qui ouvre à 9h. Mais ça, c'est une question de gestion du temps, ça. On connaît ça, on connaît les retraités débordés. Hein. Attends, ça va partir sur TikTok, ça, tchit, sur Twitter. Le Monde, la une du Monde, de moins. 2 points, Samuel Etienne s'en prend aux retraités. Hello Alexandra. Ça prépare mal la campagne 2027, ouais. Attention à la chute des audiences de questions pour un champion. Oh, grande madame, j'avais pas pensé à ça, putain. Attends, je reçois un SMS. Attends, j'ai un SMS. Parfois, c'est important. Bonjour, je suis journaliste au journal Le Monde. Pourriez-vous m'accorder un entretien sur vos récents propos sur les retraités français? Voilà. Sachez que j'écrirai cet article, quelle que soit votre réponse. Merde. Bon, on est baisé. On est foutu. Merci Théo 420 pour le soutien. Je joue à Natsu, là, je suis sûr. J'ai repris l'arc GTA, là. Elles sont remplies à quel point, Tessman, depuis que tu stream? Full, Coconut. Full, full. Full, il n'y a plus de gras, il n'y a plus rien. On est à l'os, là. On est à l'os. Lorelai and the Laser Eyes. On a une proposition de jeu. Bonjour Samuel, ce n'est pas au journaliste, mais à l'enquêteur Étienne que je soumets le jeu Lorelai and the Laser Eyes. Il faisait partie de la sélection des meilleurs jeux indés au dernier Game Awards. Lorelai and the Laser d'ailleurs. Lorelai, j'adore ce prénom. C'était pas le nom d'une muse, non, d'une sirène du Rhin, Saint Lorelai, dans la mythologie de par là, quoi. Merci Pandaro, merci Ambiello. Voyons, voyons. Alors. Un jeu indé? C'est un jeu indé? Ah ben, il y a une fiche wiki. Jeu de réflexion. 16 mai 2024. Le joueur contrôle une protagoniste. Ok. J'arrive, sinistre, je vais faire coucou à ta grand-mère. Le joueur contrôle une protagoniste invitée par un réalisateur italien excentrique à venir participer à son projet artistique dans un vieil hôtel d'Europe centrale. Ok. Je spoil. Le gars, c'est un vampire, il va la bouffer. Mec, il dit n'importe quoi. Pour progresser, le joueur doit résoudre des énigmes généralement sous la forme de code à entrer comme. Par exemple, celui d'un cadenas. Je suis nul pour ce genre de jeu, quoi. Il est souvent nécessaire d'avoir de quoi écrire pardon, des notes pour faire le lien entre les différents éléments. Le jeu est essentiellement noir et blanc avec des touches de rouge. Oh, joli ça. Et la caméra est le plus souvent fixe. Right. Un jeu de réflexion. Right. T'es bon pour quel genre de jeu? Ok. Trailer? Trailer. Trailer. Alors je suis bon pour aucun de jeu, pour aucun jeu Zda, mais je mets beaucoup de passion dans ce que je fais. Si des live running, il y en aura, mais pas y avoir tous les jours Alpha Week, mais il y en a. On en a fait un il n'y a pas longtemps, hein, avec un champion paralympique. C'était incroyable d'ailleurs. C'est en replay sur la chaîne. Trailer. Trailer. Salut Pouli! Sinistre, j'arrive. Hein. Attends, c'est magnifique. Et la musique? Non, non, j'arrive, c'est dit, je vais faire un vrai bonjour. Mais attends, comment s'appelle ce grand esprit français qui sur un plateau de télé parlait des joueurs du jeu vidéo avec beaucoup de passion, d'empathie, de... Comment il disait que les gens qui avaient plus de 25 ans qui jouaient aux jeux vidéo étaient des... J'ai oublié le mot. Des comment... Attendez, comment il disait? C'était des... Attendez, c'était quoi le mot? Il disait que les joueurs de jeux de vidéo plus de 25 ans, c'était des demeurés. Voilà. Comment s'appelait ce grand esprit déjà? Qui semblait bien connaître son sujet. Comment vous dites? J'ai oublié. Comment vous dites? Demeurez abruti. Ah oui, Yann Moix. C'est ça. Yann Moix. Regardez ceci un instant. Wow, merci pour le cadeau que m'a fait la personne qui m'a parlé de ce jeu. C'est Yord. Yord, merci. Incroyable, incroyable. Le jeu est dur, j'ai dû prendre un carnet, par contre, j'ai pas pu décrocher, j'ai joué 26 heures d'affilée. Je pense que ce jeu est trop dur pour moi. Je pense que mon cerveau n'est pas. Je pense que je manque de rigueur et de concentration, mais c'est un très beau jeu. C'est incroyable. Kefta. Samuel, tu as clairement une haine du talent si tu critiques comme cela Yann Moix. Kefta, qui est peut-être en boule chez lui actuellement. Kefta, boule, vous l'avez ou pas? Kefta, The SLVG. Samuel, tu as clairement une haine du talent si tu critiques comme cela Yann Moix. Il n'y a pas de kappa dans cette phrase. Il n'y a pas de kappa dans cette phrase. Et il n'y a pas de kappa dans cette phrase. Je pense que Kefta est un petit malin parce qu'en fait, il y a un kappa, mais qui n'est pas écrit. Il y a un kappa qui est pensé. Je le sais. Kefta, ma petite boule de Kefta, il y a un oubli volontaire du kappa. Je le sais. Non, 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 non. Kefta est un grand esprit. Non mais je suis parce que je vais voir son historique. Il a fait exprès mais il l'a pensé. Je valide. Patate cuite des îles. Merci pour le soutien. Sidistre. Je reviens au message de Sidistre tout à l'heure parce que je ne l'ai pas oublié. Bonjour Samuel, pouvez-vous dire bonjour à ma grand-mère? Elle s'appelle Anne-Marie. Anne-Marie, je ne sais pas si vous êtes avec votre petit-fils ou votre petite-fille, parce que le pseudo ne dit pas le sexe et le genre. Mais Anne-Marie, un grand coucou et on est très heureux que vous soyez avec nous si vous êtes là. Voilà, je vous embrasse tous les deux. Ma grand-mère a 90 ans aujourd'hui. 7-7, tu lui feras un gros bisou, tu te souhaites un bon anniversaire. Tu dis, tu sais, le gars de Question Prochainement qui ressemble à Brad Pitt. De lui, là. Merci Nick pour le deuxième mois d'abonnement. Salut Samuel, je suis en train de montrer tes lives à mon chef. Mince. Suis pas rasé. À ma zouille. Salut Samuel, je suis en train de montrer. T'es live à mon chef, est-ce que tu peux lui faire une dédicace s'il te plaît? Il est fan, ton prénom est Cédric. Cédric, deux choses. C'est ton chef, hein. Cédric, deux choses. D'abord, merci d'être avec nous. Voilà, une grande dédicace à vous. Deuxième point. Vous pourriez donner une petite augmentation à Amazouille. Petite augmentation. Petit quelque chose, petit geste, petite prime. Hein? Les temps sont durs pour tout le monde. Pauvre Cédric. Pauvre Cédric. Salut, je suis avec mon idole Elon Musk. Est-ce que tu peux lui faire une dédicace et acheter une Tesla en live, par exemple? Non. Non, je n'ai pas envie d'acheter une voiture à quelqu'un qui soutient les partis d'extrême droite européens. Entre autres. Non, ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans mon agenda. D'autres propositions? D'autres propositions? Salut Samuel, si tu parles anglais, je veux bien aussi que tu fasses un message pour ma boss. Putain, je suis nul en anglais. Hi Flo, and hi Flo's boss. Spécial dédicace to you. Flo's boss. And could you give her a little raise, please? Money. Like that. Thank you. Doobie, proud of you. J'ai la ref. Merci Geekette in Wonderland pour ce raid adorable. Merci, c'est gentil. Merci Geekette. Merci beaucoup, c'est adorable. Regardez ce que je suis en train de regarder. Geekette in Wonderland. Parce que, pardon, un nom de chaîne comme ça, t'as envie d'aller le voir. Eh. Presque la quarantaine. Donc, tu es un enfant par rapport à moi. Hein. Et toujours la. Geekette dans l'âme. Joueuse de LOL. Oh, joueuse de LOL. Mais comment fais-tu, quoi? Et fan de RPG. Je t'invite à me rejoindre pour des streams chill, du fun et des moments mémorables entre clutch, improbable et fou rire. Eh. Et pardon, mais ça, c'est carré, regardez. Hein. Là, sur la bio, on a tout ce qu'il faut, quoi. Lundi, vendredi. À 18h, LOL. Dimanche 15h, RPG Time. Si tu aimes la baston, l'exploration, salut Jubul. Passez un bon moment, rejoins-nous ici, sur le Didi et sur les réseaux. Voilà. Geekette in Wonderland. Voilà. Vous savez quoi? Tchou. Je vous épingle la chaîne. Vous l'avez en haut du live, du chat. Attends, je vais vous mettre là. Pas le About, là, la chaîne. T'as vu le petit panneau tout propre, ouais? Hop, n'hésitez pas à follow les amis. Let's go, ça. Yep. Ah, pardon, les petits bruits de bouche là. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi ça a fait comme ça, ça? Pourquoi je veux pas ça, moi? Voilà. Merci Nick encore pour le soutien. Alors. Écoute, vu qu'on est de doléances, je recherche du boulot, j'ai un master de sciences politiques, ça m'intéresse. Alors moi, je ne cherche pas quelqu'un qui a un master de sciences politiques. Pour l'instant, je ne cherche personne. Enfin, si, je cherche quelqu'un que j'ai déjà trouvé, hein, qui va venir travailler avec moi, même dans quelques, pas tout de suite, mais dans quelques mois pour m'aider, m'accompagner. Mais a priori, pas avec ce profil, hein, plutôt opérationnel. Mais en tout cas, si quelqu'un cherche quelqu'un avec un master de sciences politiques, il y a STWI qui est dans le chat. J'ai un diplôme en massage, Sam. Non, non, je ne cherche pas ça non plus. Merci, VB Fox. C'est un thé, je sais pas quoi. Gingembre, peut-être, je sais pas. Stanley, Parable. On me parle d'un jeu. Ascalaf me parle de Stanley, Parable. Est-ce que quelqu'un a déjà fait jouer à ce jeu? Comment ça s'écrit? Stanley Parable, comme une parabole. C'est ça? C'est un bon jeu, ça? C'est bien, ça? Classique de la narration. Très sympa. Excellent jeu, me dit Pouli. Fiction interactive. Plap. Stanley. Le joueur incarne Stanley. L'employé numéro 427 d'une société. Son emploi est simple, presser des boutons au bon moment uniquement sur affiché par l'écran de son ordi. Le jeu commence lorsqu'un jour Stanley ne reçoit plus aucun ordre sur son prompteur et qu'il apprend que tous ses collègues ont mystérieusement disparu. Mais attendez, c'est pas un jeu où il faut tuer des gens juste avec des fusils comme. Mais je crois que les jeux. Je crois que les jeux vidéo c'était que ça, parce que j'ai entendu quelqu'un qui en parlait à la télé récemment, qui connaît bien le sujet, qui disait que les jeux vidéo c'était des trucs de tir comme ça. Uniquement. J'ai oublié le nom de cette personne. Et qu'il apprend que tous ses collègues ont mystérieusement disparu. Il se lance donc dans l'exploration d'une suite de bureaux au mur beige. Guidé par la voix d'un étrange narrateur, le joueur a ensuite le choix d'écouter le narrateur qui le somme de suivre la trame narrative ou de prendre ses propres décisions. Vidéo. Trailer. 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 Deux minutes de trailer. 2 minutes de trailer. Ouais, j'ai 53 là. Secondes. Allez, on fait 2 minutes.
This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy.
Y'a plus personne? Ah oui, une espèce de... Y'a pas une sorte de boucle? Il y a une sorte de boucle, non?
Stanley worked for Stanley went around. Stanley stepped into the Stanley just sat around. Stanley walked upstairs. Stanley was in such a rush. Stanley is quite a bore. Stanley for the first
time. Stanley had never seen a Stanley
before. Stanley just Stanley was Stanley still Stanley
Ah, c'est quoi, c'était la fin du jeu?
Oh, come now. You don't want it to end already, do you? Why don't we begin again? Wait, you... How did you do that?
Wow. Wow. C'est pas mal, hein? Incroyable. Chazora est de mauvaise humeur. Comment ça spoil? Franchement, c'est mieux de lancer sans voir le trailer. Chazora a raison. Chazora a raison. Faut pas regarder les trailers des jeux. Non, mais si, si. Moi, j'avais prévu de vous lire les journaux ce matin. Moi, j'avais des articles sur la réaction de Poutine à proposition de cessez-le-feu en Ukraine. Poutine joue la montre, les menaces de Trump sur la viticulture française, l'attaque sur les vins européens, l'affiche d'Hanouna, l'aide aux entreprises, pognon de dingue, ni contrôlé ni évalué, sinon l'humanité. J'avais, vous savez, le projet de métropole futuriste en Arabie Saoudite, là, ça part en sucette. J'avais un portrait de Bill Gates, j'avais un dossier dans l'équipe sur la Formule 1, mais on va pas spoiler, en fait. T'as raison. Je vous invite à lire ces journaux et ces articles. Parce que si je vous les spoil, le plaisir va être perdu. Je suis vraiment confus. Bonne journée à tous. Ah non, il faut se farcir le chat parfois. Hein. C'est incroyable ça. Ah oh, mon Dieu. Ah. Oh. Bon. Mon rêve, tu coupais vraiment. J'étais à deux doigts, Antoine. Mais hein, j'ai trop de respect pour la commu, quoi. C'est pas parce qu'il y a des gens de mauvaise humeur dans le chat que je dois sanctionner tout le monde, quoi. Salut Nicolas. Ah, t'avais pas le contexte, Nicolas, t'as été surpris. Hein. Oh, c'est Twitch, hein, en fait. C'est comme si je rentrais sur d'autres questions pour un champion, mais je disais, ah, pas en forme ce matin, puis les candidats sont pas. Allez, on la fait pas celle-là. À demain 18h10 sur France 3. Générique de fin, tu vois? Ce sera un peu pareil. Okay. Bon, bah du coup, je vous ai un petit peu spoilé l'actu. Est-ce que vous m'en voulez ou pas? J'adorerais, dit Nicolas. Ah, ce serait. Vous avez l'interruption subitement de la surprise dans une mécanique hyper huilée. Tu vois, le truc absolument pas anticipable. On est à la limite de la démarche artistique, du pas de côté. Je dirais presque du surréalisme, quoi. Hein? Ce serait fou, ça. Incroyable. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On spoil l'info? On n'en parle pas et je vous laisse un petit peu deviner ce qui se passe aujourd'hui, comment on fait? Hein? Hein? On y va pour le sommaire? On fait un petit spoil? On fait un mini spoil sur l'actu quand même? Quand même, on y va? Bon, allez. En plus, contrairement à hier matin où j'ai trouvé que les journaux, enfin l'actualité, c'est pas les journaux, c'est pas la faute des journaux, se répétaient un petit peu par rapport à l'actualité de la veille. Pour le coup, là, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Ce matin, vieux schnock. C'est le pseudo d'un viewer. Merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement. Tu régales. Alors, cessez-le-feu donc. Rappelez-vous, les Ukrainiens, les Américains se sont parlé. Voilà, et on est sorti une étonnante proposition de cessez-le-feu. Qui m'appelle de bon matin comme ça en plein stream? Qui pense que je vais décrocher? Si quelqu'un me regarde et est en train de m'appeler, non, non, il faut respecter le live. Merci Thierry Hello pour le 16e mois d'abonnement. C'est quelqu'un qui m'appelle et qui ne sait pas que je suis en stream. C'est quelqu'un qui connaît bien mon activité. Et donc, la question était de savoir, évidemment, quel accueil Poutine allait réserver à cette proposition de cessez-le-feu. Un cessez-le quoi, titre Libération ce matin. Et je salue les gars de l'armée. Tu as le bonjour de 6 gars de l'armée entre gardes sous la flotte dans les bois. Mini Kovarom et les amis, force à vous. Force à vous, les gars. Les gars, les filles, peut-être aussi, non? On t'a dit les gars. Okay. S'il n'a pas ouvertement rejeté la trêve proposée par Washington, à mon avis, il est un petit peu embêté Poutine avec ça. Il a dit quoi? Il a dit fort, bien sûr. Un cessez-le quoi? Un cessez-le fort. Joli, je l'ai. Vladimir Poutine a clairement fait comprendre qu'elle ne pourrait entrer en vigueur qu'à ces conditions. Oh, quelle étonnante! Quelle étonnante! Quelqu'un qui laisse un message audio, ça n'arrive jamais. Bonjour, bonjour, bon, je vous passe le nom. Je me permets, je suis journaliste. Okay, bon. Alors, cela n'est pas inventé celui-là. Bonjour Charlotte, virgule, je suis actuellement en live sur Twitch. Pouvez-vous me dire à quel sujet vous voulez-vous que nous échangions? Point d'interrogation. À la ligne, très bonne journée. Point à la ligne, c'est mal. Bonjour Charles, je suis actuellement en live sur Twitch. Pouvez-vous me dire à quel sujet voulez-vous que nous échangeons? C'est français ça? Je crois que la personne veut peut-être parler du fait que je suis le visage, que j'ai accepté d'être le visage du. Merci Monsieur Zu pour le 6e mois. Merci Thierry Hello. Le. Non, pas le visage du cul. Du cancer du cul, exactement. J'ai accepté d'être le visage pour France Télévisions et l'Institut national contre le cancer de la prévention du cancer colorectal. Voilà, évidemment, ce que moi j'ai résumé par je suis le visage du cancer du cul. Et il n'est pas impossible que cette journaliste veuille m'en parler. Voilà, donc j'en suis très fier d'ailleurs. Donc bah, je pense que je vais peut-être rappeler Charlotte, mais après, parce que d'abord, j'ai le live. Non, pas le cancer du cul, le cancer du cul, cancer colorectal. Voilà. J'avais plus de 50 ans, homme ou femme, ce n'est pas le cancer de la prostate, c'est le cancer colorectal. Deuxième cancer le plus meurtrier en France, 17 000 morts chaque année, si vous avez plus de 50 ans, homme ou femme, il y a un test, un dépistage qui est hyper simple à faire, qui est hyper gratuit, qui se fait à la maison tranquillou, hein, en 2-2, voilà. Vous demandez l'enveloppe bleue à votre pharmacien, à votre médecin traitant ou à l'assurance maladie, et let's go, quoi. Voilà. Et il y a 60, je crois qu'il y a 75% des gens concernés qui ne font pas le test, quoi. Et c'est un cancer, si vous le prenez très tôt, bam, vous guérissez, vous n'êtes pas mort, quoi. Et comme je le dis souvent, eh ben, être mort, c'est moins bien qu'être vivant. Donc, si je donne une interview à Charlotte, elle va absolument me demander, mais pourquoi vous avez accepté d'être le visage du cancer du cul? Enfin, elle va dire ça autrement. Je vais dire, parce que c'est mieux d'être vivant que mort. Eh oui! Voilà. Donc, que pense Poutine de cette proposition de cesser le feu? On verra ça tout à l'heure. Et voilà, l'Ukraine qui se replace sur l'échiquier diplomatique nous dit Libération ce matin. Poutine joue la montre. Voilà, c'est ce que nous dit également le Parisien. Hein, on verra ça, c'est intéressant. Et puis, la fameuse guerre commerciale lancée par Trump. Voilà, les Européens commencent à connaître. Les décisions prises par Trump à ce sujet, en représailles de la taxation du whisky de son pays, parce qu'évidemment les Européens ne se laissent pas faire, et c'est tant mieux, le président américain menace les champagnes et les vins tricolores, mesdames et messieurs, de droits de douane à hauteur de 200%. Ah bah oui. Merci Cathy Préfleury, merci Space Station, merci Maximo de la Vego, merci Miss Usu, merci à tous les quatre. 200%. J'imagine la réunion à la Maison-Blanche. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les vins français, là? Monsieur le Président, on vous propose une taxation qui va les faire réfléchir un peu, les Français, là, à hauteur de 15%. Allez, 17,5% si on veut être vraiment radical. Make it 200. Make it 200. Bah non, Monsieur le Président, pas 200%. Non, mais quand même, c'est aussi des alliés, quand même. Make it 200. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se passe. Hein, et voilà, c'est également dans les échos. Trump, j'ai assez fait mon imitation. Voilà. Trump menace les vins européens et le champagne d'une surtaxe de 200%. Qu'en pensent la plupart des économistes? On a lu plusieurs articles à ce propos. C'est la guerre commerciale la plus bête jamais mené dans l'histoire. Voilà. Make it 200. Voilà. Hier, on m'a dit, mais Sam, est-ce que tu nous parlerais pas de la polémique autour de l'affiche des Insoumis sur Hanouna, là? Et j'ai dit, ben non, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore trouvé d'article que je trouvais carré, pertinent sur le sujet. J'en ai trouvé un ce matin, dans le Parisien, je vous l'ai mis de côté. Voilà. L'affiche sur Hanouna qui choque, et qui choque jusqu'aux Insoumis. Hein. Le mouvement mélenchoniste a dû retirer précipitamment un visuel, on verra cette histoire, accusé d'antisémitisme, on verra sur quoi repose cette accusation, pour appeler à manifester le 22 mars contre l'extrême droite. On se penchera calmement là-dessus. Alors ça, c'est un dossier que j'ai trouvé dans l'Humanité, que je trouve vraiment passionnant, parce que je l'ai trouvé carré. C'est pas un brûlot, une tribune. Non, ça, je trouve ça assez carré. Aide aux entreprises en France, un pognon de dingue, ça vous rappelle une expression peut-être? Ni contrôlé, ni évalué. Donc là, l'article nous dirait que les aides aux entreprises qui ont atteint un montant assez important en France, en fait, alors assez important, oui, mais à quel niveau? Mais on ne sait pas trop, en fait. On n'a pas trop bien fait le calcul. Hein?
Ok.
Et que ce n'est pas trop contrôlé non plus. Ok. Les entreprises reçoivent-elles 50 ou 250 milliards d'euros d'aide publique? Comment ça, 50 ou 250? C'est pas la même chose? Bah, on sait pas. On sait pas bien. Par an, hein. C'est beaucoup quand même. Quelles sont celles qui en profitent le plus? Les grosses. Les sénateurs ont ouvert une commission d'enquête sur un sujet qui donne le vertige. Aucune administration ne dispose d'une vision claire. Pas mal! Hein, donc je me suis dit qu'on pouvait lire ça ce matin, quoi. Merci Viandox, espèce de joli pseudo, hein. Ah, Parcoursup. Régulièrement, Parcoursup passe devant le tribunal. C'est quoi cette dope, cette usine à gaz, on comprend rien, ça stresse et tout. Bon, sachez que c'était pire avant, hein. À mon époque, il n'y avait rien du tout. C'était la jungle, quoi. Et là, on a une analyse d'un journaliste du Monde, d'une journaliste qui s'appelle Sylvie Le Cherbonnier, qui travaille au service Société du Monde, et qui dit, alors oui, Parcoursup, c'est quand même beaucoup d'informations. Alors moi, je viens d'une époque où il y avait zéro information. Hein. Pour t'orienter, c'était, bah, je vais, il y a une fac à côté, là? Ouais. Alors, ton tonton Roger m'a parlé de cette école à Reims, là, qui pourrait t'intéresser, fiston. C'était un peu comme ça. Je vais lui écrire pour demander les informations. Bon, ça, c'était mon époque. Alors maintenant, il y a beaucoup, t'as beaucoup d'infos grâce à Parcoursup. Alors, un torrent d'informations, mais un déficit de conseils. Voilà. Donc, les infos sont là. Le problème, c'est pour analyser ces informations, pour les trier. Eh ben, il y a une inégalité entre les familles. Certaines sont mieux équipées que d'autres. Voilà. Donc là, c'est un article dans le Monde que je trouve assez pertinent là-dessus. Voilà. Nous, on avait juste une feuille de papier à remplir avec trois vœux. J'avais pas de vœux, moi. 7-7. J'avais pas de vœux. C'était au feeling, nous. Ouais. Et puis, alors ça, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Vous savez, il y a un projet immobilier pharaonique en Arabie Saoudite qui s'appelle Neom. On dit Neom ou on dit Néon? Je dirais Neom. Pachas, bonjour, France TV reçoit aussi un pognon de dingue. Alors, France TV reçoit de moins en moins d'argent tous les ans, hein, puisque les budgets sont en réduction permanente. C'est-à-dire qu'on demande, on demande aux équipes de France Télé de faire les mêmes émissions qu'avant, en faisant toujours la même audience, mais avec de moins en moins d'argent. Donc c'est très compliqué. Donc, Pachas, le pognon de dingue. Après, si tu veux avoir que des médias privés en France, est informé auprès de CNews et consorts, c'est un sujet. Mais je pense que du coup, la mission de France Télévisions en termes de programme et d'information, elle est de salut public. Voilà. J'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans le public. Je ne suis ni pro pour l'un ni pro pour l'autre. Mais par contre, la coexistence des deux systèmes me semble une très bonne idée. Et que globalement, ça tire plutôt le truc vers le haut. On dit Neom ? On dit Neom ? Neom, d'accord, ok. Ouais. Et The Line, bien sûr, Rastopoulos, The Line n'est qu'une partie du projet Neom. Bien sûr. Ouais. Ouais. Vu les notes de frais, ça a l'air d'aller quand même. Ouais. Ah, et vous aussi, vous vous informez sur Twitter. Moi, j'ai vu passer ça. J'ai failli faire un tweet là-dessus. J'ai vu des posts il y a quelques jours sur les notes de frais à France Télévisions. Voilà. Un truc surréaliste. Mais qui m'a fait rire. Attendez, je vais vous trouver ça en deux secondes. Et alors j'ai failli réagir, puis je me suis dit, c'est pas mon boulot, hein, c'est le boulot de la direction de France Télévisions. Et ça m'a fait rire. Et je me suis dit, le nombre de zozos qui s'informent sur Twitter, sur X, et qui vont prendre ça au premier degré, je vais en retrouver dans mon chat. Bah ouais, ils sont là, vous êtes là. Attendez. Alors attendez. Alors je vais trouver les sources de qualité qui vous donnent ça. Voilà. Attends, où est-ce que j'ai trouvé ça? Où est-ce que je vais trouver ça? J'essaie de vous trouver la source. Oh, c'était quelque chose, ça. On a l'embarras du choix. Oh, le nombre de postes là-dessus. On ne sait que choisir. Hein. Attends, attends. Laquelle je prends, moi? Putain, on ne sait que choisir. C'est Twitter, hein, tu sais jamais qui écrit, alors. Après, c'est plein de petits comptes qui reprennent l'info. Faut trouver d'où ça part au début, quoi. C'est pas évident. Note de frais. France Télévisions. Ça m'a fait rire, ça. C'est bizarre que la direction de France Télévisions n'ait pas communiqué là-dessus, d'ailleurs. Ils l'ont peut-être fait, d'ailleurs. Destination ciné. Barbeau, je vous cite les comptes. Hein. Parti milléiste français, je ne sais pas ce que c'est. Clément Garin. Mais non, Clément Garin, il fait que retweeter puisqu'il cite une information d'un autre compte. Est-ce que je peux retourner à la source? C'est illisible ce compte, la lettre, je sais pas ce que c'est. Non, Clément Garin, il source son info, il a cadre. C'est assez rigoureux, mais c'est pas ces postes-là qui m'ont choqué. Voilà. Regardez, je vous montre. Alors, bon, voilà ce que j'ai trouvé vite fait. Hein. Thierry de Cabaru, je sais pas qui c'est, mais enfin, des comptes comme ça, il y en a plein. Enfin, il y a quand même 920 likes et 452 retweets, 140 commentaires. Donc voilà, il y a des gens qui clairement ont vu cette info passer, quoi. Mais des comptes comme ça qui ont partagé cette info, il y en a plein. Alors, 1000 salariés roulent sur l'or à France Télé. J'apprends qu'un millier de salariés de France Télévisions disposent d'une carte business qui leur permet de dépenser 4000 euros de frais chaque mois en plus de leur salaire. Voilà. Soit une dépense de 4 millions d'euros par an. Qu'en France Télévisions connaît un déficit de 41 millions. Voilà. Et en fait, Thierry de Cabarrus donc cite la source, c'est l'Observatoire du journalisme, association d'extrême droite. Oui, je l'ai vu ça aussi. Ouais. Mais il cite la lettre, on va aller voir la lettre. Hein. On va essayer de trouver l'article. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que donc, Thierry de Cabarrus cite Clément Garin, et Clément Garin cite un truc qui s'appelle la lettre, que je ne connais pas. Alors. Les dirigeants et journalistes de France Télé font exploser la lettre de frais selon une information parue dans la lettre. On va aller voir ce que c'est. Les notes de frais des employés et cadres dirigeants du groupe France TV ont explosé ces derniers mois, contraignant la direction à prendre des mesures radicales pour les réguler. Alors ça, c'est peut-être pas faux. Hein. Attendez. Hein. Que les notes de frais des employés et des cadres dirigeants aient explosé ces derniers mois et que la direction a pris des mesures pour les encadrer, c'est peut-être pas faux, ça. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Mais en fait, c'est le problème, c'est la confusion avec une autre info. Selon la lettre, la direction a épluché les dépenses réalisées par les journalistes et cadres dirigeants du groupe. Bon, moi, j'en parle librement, je n'ai pas cette carte. Hein. Avec la carte business dont ils bénéficient s'ils le souhaitent. De nombreuses dépenses seront à des fins personnelles, si c'est vrai, c'est choquant, et n'auraient pas grand lien avec leur mission professionnelle. Un avertissement a été envoyé à tous les salariés qui ont réalisé des abus. Donc on apprend qu'il y a eu des abus de certains salariés avec cette carte, d'accord ? Ok ? À mon avis, c'est sûrement vrai, dans toutes les grosses entreprises, il doit y avoir ce genre d'abus, quoi. Et d'ailleurs interrogé par la galette pourquoi je dis la galette par la lettre FR là, la direction de France Télé a reconnu une recrudescence d'utilisation de certaines cartes bancaires dites corporate hein, en fait c'est pour les frais professionnels avant dans l'ancien système les journalistes, les reporters tout ça, les gens qui partaient en mission parce que moi je connais le versant journalistique de ça ben, ils payaient avec leur carte, ils se faisaient rembourser après puis à un moment la boîte a dit ben non, vous allez avoir une carte pro comme ça vous n'aurez pas à avancer l'argent quoi. Donc la direction reconnaît une recrudescence d'utilisation de certaines cartes bancaires dites corporate, c'est ce truc là à des fins personnelles, une augmentation des impayés imputés sur le compte bancaire de France Télé voilà donc ça, qu'il y ait des abus sûrement oui, puisque la direction de France Télévisions en parle. Les fameuses cartes dites corporate, donc moi je sais, en tant que journaliste, je sais que j'ai vu des reporters qui avaient cette carte pour ne pas avoir à faire l'avance des frais, hein, l'essence de la voiture pour partir en reportage, le déjeuner, ce genre de choses, quoi, quand ils sont en reportage. Donc moi je connais pas, après je sais pas ce qui se passe pour les autres salariés, je vous parle de ce que je connais. Donc ces derniers, ceux qui ont la carte corporate, tu t'en es déjà servi, je viens de dire que je n'ai jamais eu cette carte, la carotte sévère, il faut écouter. C'est pour ça que j'en parle librement. Je n'ai jamais demandé cette carte et je n'ai jamais eu cette carte. Je suis présentateur. Que veux-tu que j'aie besoin d'une carte pour aller au reportage ? Donc ceux qui l'ont ont la possibilité de réaliser 4000 euros d'achat tous les mois et de retirer jusqu'à 1000 euros par semaine en liquide. Voilà. Donc ça, ce n'est pas France Télé qui le dit. Hein. C'est a priori l'article de la lettre. Environ 1000 salariés ont le droit à cette carte, ce qui représente un coût annuel de 4 millions d'euros. Alors, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des abus, puisque la direction en parle. Quels abus ? J'aimerais bien savoir. Alors, ça m'intéresse parce que ça me fait chier que l'argent public soit mal dépensé. En revanche, regardez le raccourci. Donc, il y a une enquête d'un média qui s'appelle manifestement La Lettre. Il contacte la direction de France Télévisions qui reconnaît effectivement qu'il y a eu des abus, ils sont en train de bosser dessus. D'accord. Et donc, et de nous expliquer qu'il y a, combien de salariés concernés qui pourraient avoir la carte. Mais environ, il y aurait 1000 salariés qui ont le droit à cette carte. Alors déjà, ça ne veut pas dire que c'est qu'il y a 1000 salariés qui l'ont. Parce qu'il y a 1000 salariés qui ont droit à l'avoir et il y a ceux qui la demandent. Donc moi déjà, par exemple, je pense que j'avais le droit de l'avoir quand j'étais rédacteur en chef à France Info, mais je ne l'ai pas demandé. Donc la phrase, c'est, la phrase précise, c'est... voilà. Environ 1000 salariés ont le droit à cette carte. Donc y a, déjà, il y a ceux qui en font la demande. Et... Imaginons que les 1000 l'aient. Bon, imaginons qu'il y a 1000 qui ont le droit et ils la demandent. Ok, d'accord. Ensuite, ils ont la possibilité de réaliser 4000 euros d'achat tous les mois. Et là, évidemment, nos amis qui font des informations sur Twitter font, c'est qu'ils disent, ok, donc il y en a 1000 qui ont droit. Donc on va dire qu'il y en a 1000 qui l'ont. Ok, bon, premier raccourci, mais peut-être. Ils ont le droit de retirer, de dépenser jusqu'à 4000 euros tous les mois. Et là, évidemment, ils disent, bon, alors, donc ils dépensent 4000. Ben non. Non, ils peuvent le faire. Pour les frais professionnels. Avec des factures. Avec des justificatifs, tout ça. Mais peut-être que certains vont faire 0, certains 100, peut-être 200, certains 500, peut-être 1000. Mais du coup, sur Twitter, ça part. Donc c'est 1000 fois 4000. C'est le premier raccourci. Ok. Voilà. Donc ça fait, on arrive à 4 millions. Et on apprend, mais ça c'est à vérifier parce que ça je trouve ça surréaliste, qu'ils ont le droit de retirer jusqu'à 1000 euros par semaine en liquide. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Ça, j'ai jamais vu ça. Maintenant, je vous raconte mon expérience, moi. La carte, moi je ne l'ai jamais demandé, je ne l'ai jamais eu, mais en revanche, ça m'est arrivé d'avoir des frais professionnels. Par exemple, quand j'étais à France Télévisions pour le 12-13 ou pour France Info, pour acheter des costumes. La veste du présentateur, la chemise, la cravate, tout ça. Et donc, en fait, le système, c'était tu achètes tes costumes, voilà, dans un certain budget, limité chaque année. Il y avait un plafond. Et tu te les fais rembourser sur justificatif. Voilà. Donc, c'était très encadré. Et c'était une tannée. Il fallait scanner les trucs en 15 exemplaires, les envoyer à tel service, machin et tout. Voilà. C'était encadré, mais... Voilà, bah, comme dit Red Snow, oui, c'est logique comme partout ça. C'est hyper encadré, quoi. Donc, l'histoire des 4000 euros par mois, je suis surpris. Que ce soit consommé effectivement tous les mois, je serais très surpris parce qu'il faut des justificatifs pour tout ça. Hein. Je peux vous dire que ça rigole pas. Hein. Dès que ça avait un doute, moi, ça m'est arrivé d'avoir des mails en disant « Attendez, cette dépense-là, tel costume, oui, alors vraiment, ça rigolait pas, quoi. Donc, ça, là... Or, tous les tweets que vous voyez supputent l'idée, laissent entendre l'idée qu'il y a zéro contrôle, que c'est 4000 euros comme ça, let's go, quoi, par mois, que les 1000 en profitent, les fameux 1000, là, je ne sais pas qui c'est, qu'ils en profitent, ils font 4000 et personne ne demande de justificatif et ça ne marche pas du tout comme ça, quoi. Alors, et l'histoire des 1000 euros en liquide, ça, j'en ai jamais entendu parler. Alors, si c'est vrai, c'est hyper surprenant, quoi. Pourquoi il y aurait 1000 gus à France Télé qui auraient besoin de 1000 euros en liquide par mois. Pour faire quoi? Je n'ai jamais entendu ça. C'est impossible. C'est pourquoi? Alors, je pense que dans ce cas, c'est sûrement justifié. Je pense qu'il faut quand même dire pourquoi c'est. Mais je... Voilà. C'est là où je suis un peu surpris que France Télévisions n'ait pas répondu à ça. Voilà. Mais évidemment, sur Twitter, sur certains comptes, c'est, bah voilà, vous avez 1000 gars à France Télévisions qui gagnent, qui dépensent 4000 euros par mois plus 1000, hein, puisqu'il y a les 1000 en liquide, ça fait 5000 fois 1000, on arrive à 5 millions, quoi. Alors que le chiffre est sûrement pas ça, quoi. En revanche, France Télévisions a bien reconnu qu'il y avait des abus, à mon avis, de quelques-uns. Je pense que dans chaque entreprise, qu'elle soit privée ou publique, il y a des gars qui jouent un petit peu avec les règles, quoi. Moi, je me rappelle à. C'était où? C'était à iTélé, je crois. L'ancêtre de CNews. Il y avait une meuf, je crois qu'elle était stagiaire, ouais. Et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que, je sais pas, elle avait fait pour plusieurs milliers d'euros de taxi. Je sais pas, il y avait des milliers d'euros de taxi La meuf se servait du code taxi de la boîte et puis elle allait. Elle avait ses parents dans un pays étranger, donc pour l'aéroport, pour. Voilà. Et un jour, ils ont découvert le truc, quoi. Donc, bon, des gens comme ça, il y en a partout, quoi. Voilà. Donc, si à Francillon, il y a des abus, tant mieux, c'est bien qu'ils soient punis. Mais franchement, moi, pour avoir déjà dû me faire rembourser des notes de frais à France Télévisions, c'est chaud, hein. C'était compliqué, hein. D'ailleurs, à une époque, j'avais arrêté de me les faire rembourser. C'était quoi déjà? Je sais plus quel type de frais. Ben, c'était des fringues, quoi. Tellement c'était chiant. Tellement c'était casse-couille. Parce qu'avant, c'était tu scannais ta facture, tes dépenses, tu les envoyais par mail à une espèce de quelqu'un qui était au-dessus de toi, et puis après, ça partait en compta, quoi. Mais alors après, c'était une appli spéciale, dont j'ai jamais retenu le nom, une appli spéciale dans laquelle il fallait scanner avec 15 000 sous-menus, trucs et tout. Oh là là! C'était vraiment la croix et la bannière, quoi. Et donc j'ai arrêté. Je n'envoyais plus mes notes de frais. Je disais, allez, Concur! Merci! Professeur Escobar, Concur, Concur. Je ne comprenais rien à ce truc-là. SAP Concur, là. Là, c'était, j'ai connu ça, moi. Oh, j'ai arrêté. Je n'envoyais plus les notes de frais. Je lui ai dit, mais t'as plus de notes de frais? Je dis, non, non. Que c'est quoi avec votre truc? Oh non. Donc c'est ça. Ah, merci, professeur Escobar. Avec plaisir. LOL, c'est un enfer, cette appli. Dire, mais sérieux, avec ce machin-là, c'est hyper encadré, quoi. Hein, c'est d'accord. Les produits SAP, c'est toujours un cirque. Concur, j'ai la même, soutien Samuel. Voilà. Le truc insupportable. Donc, moi, du coup, j'avais, en gros, arrêté d'envoyer mes notes de frais, puis surtout, j'avais arrêté d'acheter des costumes parce que j'en avais assez, et puis ça tout va très bien. J'avais un plafond chaque année de dépenses de frais de fringues, quoi, pour France Info, et je les dépensais pas. Zéro, je prenais 0 € là-dessus, sur cette enveloppe pour les fringues, quoi. Parce que ça me cassait les couilles de rentrer dans Concur, là. Voilà. Donc, tout ça pour vous décrire mon expérience de France Télé, où l'argent, il est vérifié, il est scruté, il est suivi. Donc, qu'il y ait des gens qui a eu des abus, on l'a vu dans toutes les boîtes, ça existe. Mais que ça parte sur Twitter en mode, il y a 1 000 personnes à France Télé qui ont 5 000 euros en loose day comme ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Voilà, ça c'est mon sentiment. Pardon pour la parenthèse, mais du coup, ça, comme ça parlait de ça. Voilà. C'est quoi du coup la lettre? Comme média. Qui sommes-nous? La lettre. Indigo Publication. La lettre est la référence sur les pouvoirs en France. Tous les matins. Ah, c'est l'équipe ça. Tous les matins, notre quotidien anticipe et révèle des décisions stratégiques issues de la sphère politique. Ça a l'air sérieux, hein? Des entreprises et des médias. Ça a l'air sérieux en vrai. Ça a l'air super sérieux. Ça rigole pas. En vrai, ouais. Et alors, c'est eux qui ont sorti le truc alors. Alors, je suis pas abonné, moi. Média. Donc, c'est eux qui ont sorti l'info. Non, ça a l'air sérieux, ça a l'air carré, bah, au niveau de la structure et tout, quoi, tu vois. Tu vois que ça allait, il y a des sources, il y a des trucs. Déjà quand tu as un site qui te dit, déjà quand tu as un média d'information, pourquoi ça a l'air sérieux? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est un média où tu vois qui bosse pour. Regarde, tu as les photos des gens, tu as les noms des gens. Regarde, équipe éditoriale, tu vas trouver les noms, les emails, tu sais qui te parle. Si les gens, ils te racontent de la merde, parce qu'il y a Elkin, pourquoi ça a l'air sérieux? Je vais vous dire. Parce que si ces gens te racontent de la merde, tu sais qui c'est. Voilà. C'est pas Bertrand du bar d'à côté 22 sur Facebook ou sur Twitter, tu sais qui c'est. Donc si ces gens te racontent de la merde, tu peux les interpeller, tu peux même les poursuivre en justice s'il faut. Voilà. Ça déjà c'est un bon indice, c'est intéressant, tu vois. Et puis manifestement, ils parlent même très très vite de comment dire, de la structure capitalistique publiée par le groupe de presse Indigo Publication. Tu l'as tout de suite, tu vois. Ça veut dire que tu vas pouvoir aller chercher qu'est-ce qui est Indigo Publication, qui contrôle ce groupe, tu vois? Voilà. Bon, ben, la plupart des comptes Twitter sur lesquels certains s'informent ici, vous n'avez pas ça, tu comprends? Voilà, c'est pour ça que ça a l'air. J'ai pas dit que c'était sérieux. Merci Holkin pour ta question qui est très pertinente. J'ai pas dit que c'était sérieux, que ça avait l'air sérieux, hein, qu'il y avait des indices de. C'est assez rigoureux, comme ça. Je connais pas, hein, je parle donc c'est vraiment au doigt mouillé. Hein. Alors les médias, c'est eux qui ont sorti l'enquête. Le truc sur les frais, là. Tiens. France Télévisions chiffre le dérapage contrôlé des cartes corporate. On va sûrement pas pouvoir le lire, parce que je pense que il faut s'abonner. Hein. Un contenu de qualité, ça se paye. Voilà, il faut se connecter. Ouais. Ouais. Ah merde, c'est frustrant. Ouais. En réaction à un article de la Lettre dévoilant des restrictions sur les cartes bancaires corporate, la direction financière de France Télévisions a établi le montant des impayés. Il s'élève à 49 000 euros pour les 2024. Bon. Alors je ne sais pas à quoi correspond ce chiffre. Voilà. Mais on s'éloigne des 5 millions là. Voilà. Dommage, c'est frustrant. Voilà. Ça a l'air pas mal ce truc en plus, dommage. Par contre, il faut. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est un article sur la réaction de France Télévisions. Et là, ah, il y a un article de Check News sur l'IB. Ah, bah ça, on va y aller. Ça, je suis abonné. Voilà, le premier dossier, c'est celui-là. Mais pourquoi on prend du temps sur ce sujet? Parce qu'en fait, on montre comment essayer de voir si une information, elle est rigoureuse, de qualité ou pas. Merci Modeste Thomas pour le soutien. Tu vois? Confronté à des dérives sur l'utilisation de la carte corporate réservée aux journalistes et aux cadres dirigeants, la direction de France Télé a choisi d'en restreindre l'utilisation. Voilà. Attention. Est-ce que, on va aller voir l'article de l'IB, est-ce que c'est pas aussi un moment, je vous rappelle que France Télévisions doit faire remplir les mêmes missions chaque année avec de moins en moins d'argent parce que l'État lui accorde de moins en moins d'argent, est-ce que c'est pas une façon de faire des économies en disant ah, il y a eu des excès, donc on va réduire ça. Bon. Ça. Alors on va aller voir, vous me dites que Libération a fait un sujet là-dessus. Voilà. Bon, l'IB, je suis abonné. Et l'IB, ils sont dans une démarche assez rigoureuse aussi. Libération, note de frais. Donc, a priori, on part sur quelque chose de sérieux. Après, je voyais ça dans le nombre de mecs qui ont tweeté cette info là, en mode les salariés de France Télévisions se gavent 5 000 euros par mois. Combien sont allés lire l'article de la lettre, sachant que c'est sur abonnement? À votre avis, combien de gens ont pris l'abonnement pour lire l'article, dont les gens qui ont tweeté, à votre avis, en pourcentage? Peu, moi je dis zéro. Moi, je dis zéro. Vous dites peu, moi, je dis zéro. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Libération de note de frais. Alors. Hop. Eh ben oui. C'est important cette parenthèse qu'on fait ce matin. Carte corporate, article de Libération, article réservé aux abonnés. Ça tombe bien, je suis abonné. Les séries de France Télé ont-ils droit à 4 000 euros de frais professionnels par mois? Je n'ai pas lu cet article. On va le lire ensemble. Un article publié par La Lettre a suscité une polémique à propos d'une carte de paiement proposée à certains salariés d'entreprise publique pour éviter d'avancer certaines dépenses liées à leur fonction. C'est ce que vous expliquez. Ah, il faut que je m'abonne. Enfin, il faut que je me connecte. Donc, je vous cache l'abonnement. Connectez-vous. Je peux vous montrer mon abonnement quand même. Je suis pas sûr de l'email par contre. Ah si, c'est bon, c'est sûr, sûr. Alors, let's go. Maintenant, on y est. C'est bon, je suis sur mon compte. Ok. Un scandale avec notre argent, à en croire de nombreuses publications sur les réseaux. C'est exactement ce dont on parlait, quoi. Alors que France Télé fait état de 41 millions d'euros de déficit. Nombre de journalistes bien pensants du service public disposent de cartes bancaires business les autorisant à effectuer jusqu'à 4 000 euros d'achat par mois et de retirer jusqu'à 1 000 euros par semaine en liquide, se désole un utilisateur de X. Vous savez, hein? La fameuse info qu'on lit sur Twitter. La polémique est survenue à la suite d'un article de La Lettre, selon lequel France Télévisions serre la vis sur les notes de frais. Le média en ligne s'appuie sur une communication interne du 18 février. Qui a été mise en ligne sur le site d'un syndicat, donc c'est des infos qu'on peut trouver assez facilement, faisant état de nouvelles dispositions quant à l'utilisation de la fameuse carte corporate au sein du groupe. Dans son message, la direction financière du groupe indique: nous constatons une recrudescence d'utilisation de certaines cartes bancaires corporate à des fins personnelles, ça c'est naze, et une augmentation des impayés imputés sur le compte bancaire de France Télé. Celui-ci se substituant contractuellement au collaborateur en cas de défaut de provision définitive du compte bancaire du salarié. Cette carte de paiement permettait jusqu'ici aux cadres et aux journalistes d'effectuer jusqu'à 4000 euros d'achat chaque mois, de retirer jusqu'à 1000 euros par semaine en liquide, détaille la lettre. Plus que le rappel à l'ordre interne sur les règles d'utilisation, c'est l'existence même de ces cartes qui a semblé choquer beaucoup d'internautes, un émoi encore amplifié par un certain nombre de confusions sur le sujet. Certains commentateurs ont évalué le budget de ce dispositif à un montant colossal qui avoisinerait les 48 millions d'euros. Hein, un chiffre obtenu en multipliant le montant de 4... Ah oui, c'est mensuel, putain. Eh oui. Ah ben oui, c'est mensuel. Il fallait faire x12. Mais je disais 400 millions tout à l'heure, mais non. Ah ben oui. 4000 euros par mois de frais, plus 1000 en liquide, ça fait 5000. Fois 1000 salariés, ça fait 5 millions. Par mois. Voilà. Eh oui. Donc, sauf que 5000 fois 1000, ça fait 5 millions. Voilà. Moi, je fais fois 12, ça fait 60. C'est même pas 48. 60, ça fait 60 millions. Voilà. Évidemment, donc les rois de l'investigation sur Twitter sont arrivés à ce chiffre. Voilà. En faisant le petit calcul que je viens d'indiquer. Problème, nous dit Libération, qui a un petit peu travaillé sur le sujet quand même, ce calcul simpliste impliquerait que tous les salariés qui ont cette carte ont systématiquement 4000 euros de frais par mois, soit le plafond. Par ailleurs, la représentation qui est souvent faite sur les réseaux sociaux omet de préciser que la carte sert à régler des frais professionnels, notamment les repas et déjeuners lors de déplacements par exemple, qui sont par ailleurs plafonnés. Ah oui, c'est plafonné bien sûr. Ensuite et surtout, comme l'explique un document interne de France Télévisions, la carte corporate débite. Ah ça, je ne savais pas ça. La carte corporate débite le compte personnel. Alors ça, je l'apprends, j'ai jamais eu cette carte. Du salarié, avec un débit différé, ce qui lui permet de ne pas avoir avancé les frais. Le débit est sur son compte. C'est sur son compte. Et comme il y a un débit différé, il est censé être remboursé avant par l'entreprise. Voilà. Ok. Donc déjà, c'est plus la même, hein. Ce dispositif permet aux salariés qui ont des dépenses de nature professionnelle de les régler sans avance personnelle comme c'est fait dans plein d'entreprises. Si certains salariés ont pu utiliser la carte pour des dépenses non professionnelles, ce qui est interdit bien sûr, ils n'ont donc en principe pas été remboursés de ces sommes. Moi je vous le disais, mon expérience de France Télévisions, c'est quand je dépensais un truc pour acheter un costume pour le travail par exemple, ben, je peux vous dire que la facture a été vérifiée. Puisqu'ils ne pouvaient pas les justifier comme dépenses professionnelles. Ils ont simplement... Voilà. Okay. Bon, ça, c'est si le contrôle est rigoureux. J'espère qu'il est rigoureux. En tout cas, pour moi, il l'était. Tellement rigoureux que j'ai arrêté d'envoyer mes notes de frais, moi. Tellement casse-couille. Ce système ne représente donc un véritable coût pour l'entreprise que si un collaborateur de France Télé fait défaut, c'est-à-dire que son compte n'est pas assez alimenté. Ah, je commence à comprendre. Pour que les sommes payées après avec la carte puissent être débitées. Dans ce cas-là, France Télévisions se substitue contractuellement aux salariés. Voilà. Exemple, un journaliste utilise sa carte pro pour régler 100 euros d'une nuit d'hôtel. Voilà. Dans les jours qui suivent, France Télé lui rembourse son compte personnel. 55 jours après la dépense, les 100 euros sont débités du compte du journaliste, mais il n'y a pas de sous sur le compte, parce que le mec est dans le rouge. Parce que là, France Télévisions se substitue et paye la note. Et donc l'entreprise paye deux fois. Voilà. Mais les cas sont rares, explique une source interne. Les salariés ont été rappelés à l'ordre et en 2 ou 3 jours, ils faisaient en sorte de régler le problème. Un salarié qui partirait en laissant l'ardoise, à ma connaissance, on ne s'est jamais retrouvé face à ce cas de figure. Voilà. D'après l'article de la lettre, d'ailleurs, cité par Libération, parce que Libération est allé lire l'article, les montants des impayés ne s'élèvent qu'à 49 000 euros pour l'année 2024. 60 millions d'euros, 49 000 euros. Bon. Contacter le groupe France Télévisions avance que le document révélé par la lettre était un simple rappel aux règles, comme nous le faisons pour tout le temps. Je peux vous dire que ouais, France Télé, ça rigole pas, l'utilisation de l'argent public. Bien sûr, on peut relever parfois des irrégularités, souvent de bonne foi, que nous demandons de corriger de suite. Et si nous relevons des irrégularités, c'est précisément parce que nous contrôlons. Côté chiffres, alors on disait qu'il y avait 1000 personnes qui en bénéficiaient. Ben non, c'est plus. France Télévisions indique qu'il y a 1700 cartes actives, une majorité de journalistes et techniciens, c'est effectivement c'est pour ceux qui partent en reportage, qui ont des frais pour leur reportage et tournage. La plupart des cadres dirigeants n'en ont pas. Voilà. Voilà. Bon, ben bah voilà. Alors, d'un côté, il y a la question dans le chat tout à l'heure, mais que je comprends, parce que vous avez vu passer l'info sur Twitter vite fait, en mode qu'en est-il du retrait en liquide ? Ils n'en parlent pas à Nightwolf. C'est bizarre, parce que j'ai jamais entendu parler de cette possibilité de retirer de l'argent en liquide. Ils n'en parlent pas là. L'article de Libé n'en parle pas. Donc, l'info sur Twitter, c'est voilà. En gros, il y a 1000 personnes à France Télévisions qui dépensent 5000 boules chaque mois. One again, c'est une honte, c'est de l'argent public. Bon, vous lisez ça en 2-2, vous regardez pas trop le compte. Vous n'êtes pas forcément allé voir si le gars avait bossé. Et puis, il y a l'enquête de Libé qui a lu le document de la lettre, etc. Et on se rend compte que, bah, en gros, il y a R. Voilà. Mais vous avez vu le temps que ça nous a pris ? Vous avez vu le temps que ça nous a pris ? Combien de temps on en a parlé ? Comment demander à chaque citoyen de faire ce travail-là ? Et encore, moi, je suis abonné à Libération. Donc, j'ai pu accéder à l'article de Libé. Moi, par exemple, imaginons que je suis un citoyen un petit peu rigoureux. Je vois un mec qui retweet un mec, qui cite un mec, qui cite la lettre. Donc déjà, il faut faire tout ça. Il y a un gars qui cite Clément Garin. Clément Garin cite l'article de la lettre. Donc déjà, ça veut dire si ça m'intéresse vraiment, je vais dire ok, attends, il faut que je retourne voir l'information. Alors, ok, donc c'est pas toi qui donne l'info, c'est pas toi. C'est pas toi. Ok, c'est la lettre. Ok, je vais voir la lettre. J'ai pas accès à l'article. Faut être abonné. À mon avis, c'est cher. Bon ben, je laisse tomber. Mais par contre, les mecs de France T, ils se gavent, hein. Ils se gavent. Hein. Combien de citoyens vont faire ce travail, quoi ? C'est. Pff. Il y a une règle qui dit que tu passes toujours beaucoup plus de temps à contredire une désinformation qu'à émettre cette désinformation. Voilà. Les fake news voyagent plus vite que le debunk. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour défendre France Télévisions, mais quand j'ai vu... C'est la loi de Brandolini. Merci, poulet pané. La loi de Brandolini, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter les sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Voilà. Merci. Bon, ben, moi, mon objectif ici n'est pas de défendre France Télévisions, ils sont assez grands pour se défendre tout seuls. Mais moi, mon expérience de journaliste de France Télévisions, quand j'étais à la rédaction, c'était qu'effectivement, l'utilisation des fonds publics, elle est extrêmement rigoureuse, elle est même un petit peu casse-bonbon, tu vois. Et j'étais très surpris parce qu'ils sortaient. Donc, mais combien d'internautes qui ont vu passer cette info, le scandale, les gars qui se gavent à France Télévisions, combien d'internautes qui ont vu cette info, et il y en a eu plein, la preuve, certains m'en ont parlé dans le chat, voilà, combien vont rester avec cette idée et vont en parler autour d'eux. Et vont en parler autour d'eux en disant « Ouais, t'as vu le scandale et tout. » Vous imaginez ? Combien donc d'internautes vont colporter cette info et combien vont aller vérifier et fact-checker l'info. Voilà, c'est comme ça qu'on avance dans une société qui désinforme de plus en plus. Merci à la personne qui m'a posé les questions parce que ça nous a permis un petit peu de travailler sur ce sujet-là. Quoi. Bon. À quelle heure il est ? 11h27. Voilà. Alors vous non, parce que vous êtes des gens rigoureux, vous. Vous non, parce que vous êtes des gens rigoureux. Alors, moi j'étais dans le sommaire, on ira en Arabie Saoudite pour parler de ce projet immobilier de fou là, Neom, hein, puisque vous m'avez bien expliqué qu'à ce qu'on sait Neom, vous savez, avec notamment cet immeuble incroyable, très très long là, ben le truc prend l'eau. Voilà, c'est un dossier dans l'opinion qui est assez passionnant là-dessus. Il y a un portrait de Bill Gates. Je crois que c'est une biographie que lui-même écrit. 69 ans, Bill Gates nous livre son autobiographie. Je trouvais ça assez intéressant. De son enfance de semi-autiste aux circonstances qui ont fait de lui l'homme le plus riche du monde pendant 2 décennies, puisque maintenant il a été détrôné. C'est par le gars là qui fait des trucs là. Avec humour et humilité. On va lire ça, quoi. Le truc prend l'eau dans le désert. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah oui, dans le désert, ouais. Pas mal. Pas mal. Pas mal. The Line, ouais. On finira avec de la Formule 1. Je ne suis pas un gros spécialiste de Formule 1, mais effectivement, il y a une nouvelle saison qui reprend là, puisque dimanche matin, c'est le Grand Prix d'Australie qui ouvre le bal d'une saison qui s'annonce disputée et palpitante. Donc, je trouve intéressant, pour ceux qui s'intéressent au sport mécanique, de se pencher sur les forces en présence. Elle est pas mal, hein ? Vroom vroom, exactement, Joe Ball. Voilà. Alors, elle est pas belle, ma petite revue de presse ? Oh, ça m'a épuisé, le truc sur les notes de frais, là. Musk arrive à faire croire que, Gates est un type cool. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que dit l'article. Bill Gates, c'est pas le mec le plus cool de la planète. Enfin, peut-être pas. Mais à côté de Musk, si, c'est lui. C'est clair. C'est sûr. Le sommaire le plus long de la chaîne, mais ça valait le coup. Ah, parfois, je peux faire plus long. Ouais. Il est moins pire. Voilà, peut-être. Et les conséquences sur les gens qui bossent chez France Télévisions qui vont se faire harceler sur X pour ça. Bah ouais. Vie ma vie de salarié du service public. Salut Claudie Faucon. Trop gentil. C'est un compte qui a de l'influence, qui a émis la fake news. Ouais, il y a des gros comptes qui ont retweeté cette info. Ouais. Oui, c'est le côté philanthropique de Bill Gates qui est intéressant, Stéphane Gocha. En ce moment, il y a Musk qui est en train de taper dans toutes les subventions des États-Unis à des programmes de développement dans le monde entier. Hein, sa vie, il fait ça. Et du côté, tu as Bill Gates qui a donné quasiment toute sa fortune à des ONG. Quoi. On y va ? On commence avec l'Ukraine ? J'ai votre go ? Salut Defecator, on y va ? On y va. Alors bon, ça c'est hyper important. Hop, vous savez que il y a eu du nouveau il y a quelques jours là. Américains et Ukrainiens sont mis d'accord pour une proposition de cessez-le-feu. Cessez-le-feu après X années de guerre en Ukraine, donc ça n'est pas rien. La question c'est, qu'est-ce que va faire Poutine de cette proposition, bien sûr ? Parce que si Poutine ne veut pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de cessez-le-feu. Un cessez-le-quoi, c'est une libération ce matin. S'il n'a pas ouvertement rejeté la trêve proposée par Washington, Poutine a clairement fait comprendre qu'elle ne pourrait entrer en vigueur qu'à ces conditions. Édito de Dove Alphon, intitulé « Flou ». Réagissant à chaud jeudi soir aux premières remarques de Poutine sur la proposition américaine d'un cessez-le-feu en Ukraine, Trump paraissait quelque peu désorienté. Trump qui a dit « C'est très prometteur, mais ça n'est pas complet. J'espère qu'il va faire ce qu'il faut. Ce serait très décevant », a fini par dire le président américain. Voilà. Libération estime qu'on est dans le flou total. Un flou voulu par le Kremlin, assumé, presque mis en scène. Une séquence qui débute mercredi soir, quand dans une vidéo visiblement éditée à la hâte, le président russe parade dans un QG militaire près de Koursk, en treillis de camouflage, prêt au combat. Le lendemain, à Moscou, changement de décor avec un Poutine en complet noir d'enterrement. Voilà, blablabla, ça suit blabla. Voilà, et le chef de l'État russe se dit pour la proposition américaine. Ok, let's go. Voilà, tout en précisant qu'il faut peut-être en parler directement à Donald Trump. Okay. Énonçant des objections tactiques à foison, Poutine rappelle aussi que toute négociation devra s'attaquer aux causes profondes de cette crise, négociation sur le cessez-le-feu, autrement dit la présence des forces de l'OTAN à ses portes. Nous voilà donc revenus à la fameuse conversation entre Poutine et Macron de février 2022, hein, qui s'est terminée sans conclusion parce que Poutine voulait aller jouer au hockey sur glace. Ok. Après plus de 1100 journées de combat et des centaines de milliers de victimes, le président russe continue sa partie de poker meurtrière contre l'Occident. Ok. Donc, manifestement, il n'est pas pressé d'accepter, quoi. La balle est dans son camp, écrit Véronica Dormant pour Libération, hein, et risque d'y rester coincé. La phrase de Poutine, pour, là aussi il faut retourner à la source, hein, c'est « Nous sommes d'accord avec la proposition de mettre fin aux hostilités, let's go, mais, nous partons du principe que cette cessation devrait conduire à une paix durable et éliminer les causes profondes de la crise. » Comment dire que vous n'êtes prêt à aucune concession, mais sans le dire. Alors, quelles sont les fameuses causes profondes de la crise, selon Poutine ? Les velléités de l'Ukraine à vouloir intégrer l'OTAN, parce que c'est pour ça qu'il a... C'est une des raisons qu'il a invoquées. Son refus obstiné d'abandonner les territoires que Moscou a pourtant déjà inscrits dans sa constitution et se débarrasser d'un président décidément peu conciliant. En gros, ce que veut Poutine, notamment, c'est que l'Ukraine ne puisse jamais rejoindre l'OTAN, voilà, que l'Ukraine accepte de céder tous les territoires qu'elle a déjà perdus et que qu'elle se débarrasse de ce président qui est vraiment pas très sympa avec la Russie, hein, Volodymyr Zelensky, quoi. Ah, c'est incroyable. Le conseiller diplomatique du président russe prévient « Notre objectif est un règlement pacifique à long terme, okay, Trump, qui tienne compte des intérêts légitimes de notre pays, de nos préoccupations connues. Le Kremlin veut des garanties et inscrire la capitulation de l'Ukraine dans les négociations de ce premier cessez-le-feu. » C'est-à-dire, première condition pour qu'il y ait un cessez-le-feu, l'Ukraine doit dire « Ok, on a perdu la guerre. » Comment voulez-vous que l'Ukraine accepte ça, quoi? Moscou, qui grignote lentement mais sûrement le territoire ukrainien, se sent en position de force sur le terrain militaire et n'a aucun intérêt à une trêve qui permettrait à l'armée ukrainienne de reprendre son souffle et de se réorganiser. Bien fait, l'article de Libé, il est super clair. Un mot de la région de Koursk, vous savez, cette région où les forces ukrainiennes ont réussi à prendre position sur un tout petit bout du territoire russe et pensaient pouvoir les mettre en balance dans une négociation de paix. Ben en fait, les forces russes sont en train de reprendre doucement cette portion de territoire, quoi. Ces dernières semaines, les centaines de kilomètres carrés pris à la Russie se sont réduits comme peau de chagrin. Hein. Le commandant suprême a demandé à son chef d'état-major d'accomplir toutes les missions de combat et de libérer complètement la région de Koursk. À la fin de l'article, et juste après, page 4. C'est fou, ça. Alors, Trump qui avait... C'est pas lui qui avait promis la guerre, la paix en... Pendant la campagne présidentielle, c'est pas lui qui avait annoncé la paix en 48 heures, non? En Ukraine? Une fois qu'il serait au pouvoir? Attendez, je dis une bêtise ou quoi? C'est ça, hein? Défécator. 24 heures même? Bon, disons 48 heures. Il a pris ses fonctions quand? Alors, prise de fonction. Ouais, toujours pareil, on vérifie les infos. Est-ce que c'était il y a 48 heures qu'il a pris ses fonctions? Je sais plus. Fonction. Alors, faut pas confondre élection et prise de fonction, hein. Il y a un delta entre le moment où tu es élu et le moment où tu rentres en fonction aux États-Unis. Donc là, il prend ses fonctions le... Le 20 janvier? C'est 20 janvier, vous avez le 20 janvier? On va être précis. 20 janvier. La seconde présidence de Donald Trump, 47e président des États-Unis, débute le 20 janvier. Donc, le 22 janvier, ça aurait dû être terminé. On est combien? 14 mars. On est un petit peu en retard. On est un petit peu en retard. Okay. Alors, il en est où? Trump est impatient, comme toujours, veut croire qu'on est sorti de l'impasse. Voilà. Malgré un dialogue qui a repris entre Moscou et Washington, le président américain a-t-il vraiment des leviers pour convaincre son homologue russe de jouer le jeu? Dans le bureau ovale jeudi, il a prétendu qu'il avait un moyen de pression, mais n'allait pas encore en parler, car les déclarations de Poutine sont plutôt positives. Ok, à suivre. Poutine joue la montre, c'est également l'analyse du Parisien ce matin. Le président russe affiche une position ambiguë vis-à-vis de la proposition américaine de cesser le feu, un gain de temps qui pourrait lui permettre de renforcer ses exigences. Je pense qu'on n'apprendra pas grand-chose de plus dans cet article. Merci, merci, j'arrive. Ce passage est intéressant. Le président russe, dont l'éventualité d'un futur coup de fil avec Trump attise des spéculations, réclame inlassablement sa renonciation, pardon, inlassablement la reddition de l'Ukraine, donc l'Ukraine qui reconnaît avoir perdu la guerre, un, sa renonciation à rejoindre l'OTAN, on ne rejoindra jamais l'OTAN, deux, salut Balboa, et merci pour le soutien, bravo pour le CAPES, le contrôle russe des territoires ukrainiens occupés, la tactique a déjà fonctionné, rappelle un spécialiste des questions internationales, citant les garanties américaines de non-adhésion à l'Ukraine à l'OTAN, de la suspension de l'aide militaire et du partage de renseignements à l'Ukraine, qui ont été rétablis depuis mardi, ou encore les tentatives de déstabilisation de Zelensky sous pression de Washington depuis la fameuse altercation dans le bureau ovale entre les deux hommes. Poutine joue la montre, on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Voilà. Voilà. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec Trump toujours, mais la guerre commerciale. Et les 20 Français qui vont être tapés. Oui, on va en parler. The Demon Sausage, on va parler de l'affiche d'Hanouna. Ouais. Je vous lis. Je vous lis. Qui sont les 20 Français? Quels 20 Français? Ah, les 20 Français. Non, pas 20, V2-0. Les 20. Champagne, tout ça. Merci encore, Balboa. Merci, Utopia. Merci, merci Modeste Thomas. Bon, à suivre dans les prochains jours. Cessez le feu ou pas cessez le feu. Moyennement optimiste, mais bon, on va voir. La guerre commerciale. Guerre commerciale, certains économistes disent que c'est la guerre commerciale la plus stupide jamais lancée dans l'histoire de l'humanité. Merci John Too pour le deuxième mois d'abonnement. Voici la France maintenant. Hein. Coucou la petite amie Vivic, félicitations. Et la France maintenant est visée par ces sanctions commerciales décidées par le président américain. La viticulture française va sous la pression de Trump en représailles de la taxation du whisky de son pays. Le président américain menace les champagnes et les vins tricolores de droits de douane de 200%. Décryptage de l'économiste Jean-Marie Cardebas dans Le Parisien. Toujours plus haut, toujours plus fort. C'est fourboyeur ça, non? La guerre commerciale et douanière a bien lieu entre les États-Unis et l'Europe. Ce jeudi, en réaction à l'annonce des hausses de droits de douane ciblées sur certains produits en provenance d'outre-Atlantique, dont le whisky bourbon, Donald Trump a sorti de sa manche un argument en forme d'assommoir. Si ces droits de douane ne sont pas retirés immédiatement, les États-Unis vont rapidement imposer des droits de douane de 200% sur tous les vins, champagne, produits alcoolisés venant de France et d'autres pays de l'Union européenne. Je n'ai même pas les mots, se désespère Jérôme Bauer, qui est président de la Confédération des vignerons d'appellation d'origine contrôlée. Tu m'étonnes, il doit bien avoir les boules. Enfin, en gros, tous les producteurs de tout le milieu agricole et viticole disent « Ah là là, quel... » Ils disent pas vraiment « Trump, c'est vraiment hein, quelqu'un de pas gentil. » Ils disent « Quelle idée d'avoir taxé le whisky. » J'étais en train de lire les réactions des syndicats, des organisations liées à la vie du corps française. Et en fait, c'est pas vraiment Trump, c'est un gros connard. C'est pourquoi vous avez taxé le whisky? Et du coup, il taxe nos vins. C'est plus ça. Bon, chacun voit un petit peu midi à sa porte, quoi. Alors, analyse de Marie Cardoba, professeur à l'université de Bordeaux, en Gironde, affiliée à l'INSEC, spécialiste du monde viticole. Comment interprétez-vous la réaction américaine? Et Jean-Marie Cardoba, il dit « C'est une erreur stratégique majeure de l'Union européenne. Il est quand même dommage d'aller chatouiller les États-Unis en inscrivant le Bourbon sur une liste, alors qu'on exporte beaucoup plus de vins et spiritueux qu'on en importe. » Ah oui. Donc en fait, la critique, elle est plutôt sur le fait qu'on ait taxé le whisky. Ok. Voilà. Quelle erreur! Des droits de douane de 200%, c'est du jamais vu, dit le Parisien. C'est rare, mais cela a existé, même récemment. Hein, par la mesure de rétorsion, la Chine les a même portés à 214%, par exemple sur les vins australiens. Oui, c'est vraiment une analyse en fait de la filière, quoi. Et la filière française viticole, elle n'est pas contente, quoi. Elle n'est pas contente. Bon, l'info n'est pas très surprenante. Voilà. Donc c'est le whisky parmi d'autres produits, bien sûr. Hein. Voilà. Et c'est une réaction. Il n'est pas très complet, cet article. Hein. Ah, bah heureusement, j'ai les échos, là. Bon, pardon, je reste sur ma faim avec cet article du Parisien qui est vraiment sur les réactions du monde viticole. La question, c'est, moi, j'aimerais se comprendre pourquoi les Européens ont décidé de taxer le whisky. Je pense qu'on aura l'info dans cet article des échos. Le président américain dénonce la hausse des droits de douane européens sur les spiritueux américains en représailles aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Il nous manquait un petit peu cette info dans le Parisien qu'ils auraient pu rappeler, quoi. L'Europe décide cette taxe et d'autres en réaction, en représailles aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Donc, hein, voilà. C'est une réponse aux taxes américaines. Je pense que ça manque un petit peu d'être rappelé dans l'article du Parisien. C'est une véritable déflagration pour les vignerons qui attendaient depuis plusieurs semaines que tombe le couperet. Le président américain semble avoir tranché sur son réseau social Truth. Attention, c'est une annonce, hein, ça n'est pas une décision. Il a menacé les alcools européens, plus particulièrement les champagnes et vins français, de tarifs douaniers de 200%. Cela fait suite à l'annonce par l'Union européenne mercredi de droits de douane à hauteur de 25% sur toute une série de produits américains, et notamment sur le bourbon, qui devrait rentrer en vigueur à partir du 1er avril, en représailles aux surtaxes de 25% entrées en vigueur le jour même sur l'acier et l'aluminium européen. Évidemment, la filière viticole française est très inquiète, puisqu'on exporte beaucoup là-bas. Réaction du ministère de l'Agriculture. Les annonces américaines et européennes ont vocation à servir de base à la négociation qui va s'ouvrir. Maintenant, la France et l'Union ne souhaitent pas une guerre commerciale avec les États-Unis, telle que le président Trump en a pris l'initiative. Elles réagiront toutefois fermement pour sauvegarder les intérêts de leurs entreprises face à des mesures arbitraires et contraires au droit. Alors j'ai un éclairage dans les échos sur cette guerre commerciale initiée par les États-Unis, la plus bête de l'histoire, hein. Disent plusieurs économistes et disent également les échos ce matin. Trump menace quasiment d'interdire les vins français aux États-Unis parce que l'Europe lui tient tête. Sa guerre commerciale vise à mettre à bas le système de libre-échange international. Dans la cour de récré mondiale du commerce, les insultes fusent. On ne retient plus Trump, qui a donc menacé d'imposer 200% de droits de douane aux vins, champagne et autres produits alcoolisés venant de France et des autres pays de l'Union. C'est pas que la France, c'est tous les pays de l'Union, en fait. À ce niveau, il s'agirait quasiment d'interdire tous les alcools européens des États-Unis. L'Europe s'est pourtant contentée de répliquer à une provocation non souhaitée des barrières douanières sur les métaux, à la base, hein, qui n'ont d'autres justifications crédible que le désir des États-Unis de s'enrichir sur le dos d'alliés désormais perçus comme des vassaux. Alors que les accrochages se multiplient, le risque est grand que la bagarre dégénère. Hein. Donc il y a le Canada, il y a la Chine, je peux vous rappeler tout ça, quoi. Alors, rappelons que depuis le 4 mars, les produits chinois sont aussi frappés par des droits de douane tous azimuts de 20%. Début février, le Wall Street Journal avait énervé Trump en qualifiant ses projets de guerre commerciale la plus bête d'Amérique. Nous avons dit depuis le début de cette guerre commerciale nord-américaine était la plus bête de l'histoire. C'était gentil de notre part, a redit le journal. Trump dit, lui, qu'il ne pliera pas. Ce n'est qu'un début. La guerre commerciale mondiale de Donald Trump va réellement éclater le 2 avril, le jour où entreront en vigueur une série d'autres taxes sectorielles sur les importations et surtout les tarifs réciproques. Parfois, j'épingle les messages quand je les trouve vraiment très pertinents. Pourquoi mettre à feu et à sang le système international, se demandent les Échos, un grand journal gauchiste, comme tout le monde le sait. Donald Trump tient le doux commerce pour responsable du déclin de la classe ouvrière américaine. L'Amérique force la main à ses alliés parce qu'elle en a les moyens. Au pire, les droits de douane pourront remplir les caisses de l'État par l'administration. Au mieux, ils serviront de levier pour des négociations internationales favorables au dollar et permettront de réindustrialiser l'Amérique. On sait hélas comment les guerres commencent, jamais comment elles finissent. Bon, intéressant. Je vous lis. Il y a Talking Tommy qui dit voilà comment voilà ce qui se passe quand les mecs qui te volaient ton goûter sont à la tête des plus grandes puissances mondiales. Je vous lis, je vous lis. On va lire le Figaro aussi ce matin, oui. Je sais pas si Pierrot est toujours avec nous. Pierrot, il s'est mis en colère. D'ailleurs, c'est un habitué de la chaîne. Pierrot, j'essaie de retrouver ton message qui était intéressant. Attends. T'es toujours là, Pierrot? Attends. Pierrot, allez, je me casse. Dit Pierrot, qui est un habitué de la chaîne. Visiblement, on laisse dire, donc dans ce chat, je suppose, que Zelensky est au même niveau que Poutine et que la Crimée est russe alors qu'elle a été envahie, c'est une folie. Attends, Pierrot, c'est pas parce qu'il y a des foufous qui ont une compréhension limitée de ce qui s'est passé en Ukraine et qui viennent d'écrire dans mon chat que c'est une vérité. Te fâche pas, mon Pierrot. Hein. On peut pas voir tous les commentaires, hein. Je peux pas répondre à tout le monde. Hein. Il y a un mec qui va débarquer, qui va dire la Terre est plate dans mon chat, je l'ai pas vu, va pas te mettre en colère. Il est fou, on l'est pas tous. Reste là, mon Pierrot. Arrête, Sarah, je vous vois, la Terre est plate, hein. Alors, je continue à épingler les messages les plus pertinents, notamment celui-ci. Samuel, pourquoi tu ne donnes jamais ton avis personnel? C'est attristant d'avoir autant de blocages de restrictions. C'est quoi un blocage de restrictions? C'est quoi un blocage de restrictions? On a zéro info de ta part. Tu lis uniquement le journal sans t'exprimer sur le sujet. Ça va, mon Géno? Ça va, mon Géno? Tu viens souvent sur la revue de presse? Tu viens souvent sur la revue de presse? Ou t'écoutes un autre stream? Je suis sur ton historique. Tu viens souvent sur la revue de presse, Géno? Parce que moi, je m'en veux de donner trop mon avis, justement. Un peu trop. Je devrais pas, d'ailleurs. Je le laisse épingler, celui-là. Il est pas mal. Alors. Oh là 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 là. Le chat est très animé ce matin, très intéressant. Les modos, force à vous, puisqu'on va parler de la fameuse affiche de la France insoumise sur Hanouna. Pop, pop, pop. Les modos, allez manger du sucre. Prenez-vous un petit sucre. Ça va partir en sucette, là. Hein? J'enlève le message de Géno qui vient de m'envoyer un petit message très sympa dans le chat. Let's go. Voilà. Comment ça, t'es diabétique? Bah, c'est pas grave, hein. Tu vas prendre du sucre quand même, parce que là, tu vas prendre cher, là. L'affiche sur Hanouna choque jusqu'aux insoumis. Hein, c'est l'article du Parisien ce matin. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a dû retirer précipitamment un visuel, bon, accusé d'antisémitisme, pour appeler à manifester le 22 mars contre l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci, Crimso Nairo. Merci, Lolo des Bixels, comment vas-tu? 41 mois d'abonnement, quand même. Hein. Merci, John Too, pour le 12e mois. C'est quoi cette histoire? Sourcils froncés, rictus haineux, le visage menaçant de Cyril Hanouna se détache en noir et blanc. Donc, c'est cette affiche-là. Bah, c'est vrai. Hey, c'est vrai qu'il hey, c'est vrai qu'il est pas sous son plus beau jour. Hein. Non, hey, oh. Oui. Bon. D'accord. Mis en ligne mardi, donc c'était mardi, sur les réseaux sociaux, le visuel utilisé par la France insoumise pour appeler à manifester le 22 mars contre l'extrême droite, ses idées et ses relais, a provoqué une vive polémique, l'annonce d'une procédure en justice, ah bon, et un certain malaise en interne. Beaucoup d'observateurs ont vu dans la caricature de l'animateur d'origine juive tunisienne un recours à l'imagerie antisémite des années 40. Avant de débattre et de vous mettre en colère dans le chat, écoutez un petit peu l'article. En remarquant notamment la troublante similitude entre l'image utilisée et l'affiche du film de propagande nazie Le Juif éternel. Le Juif éternel. Donc c'est cette affiche-là. À gauche, là. Voilà. Donc la polémique partirait de là. Merci, Perlin Pimpidou. Oh là là, le sujet, force au modo, ils méritent une CB pour leurs frais pro. J'adore. Voilà. Ce serait. Voilà. Donc je relis la phrase que maintenant on a l'affiche, parce qu'elle n'est pas mise dans l'article. Voilà. Voilà. Beaucoup d'observateurs ont vu dans la caricature de l'animateur, d'origine juive tunisienne, un recours à l'imagerie antisémite des années 40, en remarquant notamment la troublante similitude entre l'image utilisée et l'affiche du film de propagande nazie, Le Juif éternel. Bon, ça, c'est pour que vous ayez les infos, quoi. Des accusations fermement réfutées par le mouvement LFI, hein, qui a pourtant retiré les publications concernées. Puis remplacer le visuel incriminé pour éteindre les accusations nourries selon LFI par l'extrême droite. LFI dit que ça vient de l'extrême droite. Par pitié, lâchez-nous, a répliqué hier sur France Inter Jean-Luc Mélenchon. Nous ne sommes pas antisémites, s'est-il défendu. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature, ironise-t-il. L'avocat de Cyril Hanouna, lui, a déjà annoncé vouloir lancer une action judiciaire contre un photomontage destiné à accentuer les traits de l'animateur. Donc ce ne serait pas une photo, ce serait un photomontage. C'est une caricature qui nous ramène aux heures les plus sombres, c'est ce que dit l'avocat. Il n'y a aucun doute, c'est fait sciemment, réagit Hanouna sur Europe 1. Au-delà, de nombreuses voix ont également jugé le visuel problématique. LFI recycle l'iconographie anti-juive, a critiqué la LICRA. Hein, la LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Pas besoin de beaucoup connaître l'histoire pour savoir que cette iconographie est typiquement antisémite. a estimé Yonatan Arfi, qui est le président du CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le ministre de l'Intérieur, donc le gouvernement s'est prononcé, Bruno Retailleau, a condamné également une insupportable affiche. On peut pas. À gauche aussi, alors bon, les associations, les représentants des Juifs de France, le gouvernement condamne, critique. À gauche aussi, le visuel a choqué. C'est une nouvelle saloperie de la France insoumise, a torpillé le patron des sénateurs PS socialistes, Patrick Kanner, fustigeant un visuel qui veut faire mal sur le thème de l'antisémitisme. Mais la contestation s'est aussi exprimée au sein du mouvement. Plusieurs députés ont fait part de leur malaise. Donc vous avez des élus, des députés LFI qui ont aussi exprimé leur malaise. Chaque membre du groupe est impacté, une fois de plus, par ces communications catastrophiques qui se multiplient, a notamment déclaré Émeric Caron, le député LFI. Manuel Bompard, coordinateur LFI, hein, a temporisé en donnant plutôt raison à ceux qui se sont plaints, et le visuel a été modifié immédiatement, confie une source insoumise. Le député LFI Éric Coquerel, jeudi, a concédé une maladresse sur la forme, tout en récusant toute reprise des codes culturels antisémites. Même à LFI, on n'est pas, on trouve pas ça de top, quand même. Cette affaire réactive, en tout cas, et voilà pourquoi on en parle autant de cette histoire, le procès en antisémitisme contre la France insoumise, né au lendemain des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, lorsque les insoumis avaient hésité, pour certains, à qualifier de terroristes les membres du Hamas. Ce n'est pas la première fois qu'un visuel des insoumis crée la polémique. En février, un montage mettant sur le même plan Marine Le Pen et le patron du PS, Olivier Faure, pour avoir refusé de censurer François Bayrou sur le budget, avait été supprimé à la suite de réactions indignées. En mars 2024, la justice avait condamné puis ordonné à LFI de retirer les visuels d'une campagne qui montrait la photo de la journaliste Nathalie Saint-Cric pour atteinte au droit à l'image. Un ancien compagnon de route de LFI pointe les responsabilités de la communication du mouvement. Il faut s'interroger sur le bain politique dans lequel plonge cette équipe pour produire des visuels sectaires, troubles, sans voir eux-mêmes le problème. Sur RTL, déplorant lui aussi un visuel intolérable, le président du Sénat Gérard Larcher, donc de droite, a expliqué douter souvent du caractère républicain de LFI, critiquant au passage l'organisation par le député insoumis Raphaël Arnaud d'une table ronde contre l'islamophobie ce mercredi. Au rang des associations invitées figurait le collectif contre l'islamophobie en Europe, basé en Belgique, héritier direct du collectif contre l'islamophobie en France, dissous en 2020 par Darmanin. La réunion a pu se tenir mercredi après-midi malgré les critiques et l'irruption de députés sionistes et du RN. Voilà pour les tenants, les aboutissants, les informations sur cette polémique. Je vous lis maintenant. Je fais appel à votre intelligence sur ce sujet, bien sûr. Je vous lis. Edili, je suis de gauche, mais LFI a complètement dérapé, ce n'est plus un parti, c'est devenu X, donc Twitter, dans la vraie vie, toujours dans l'excès, dans la posture, et au passage, j'aime pas Hanouna, je le précise. A l'inverse, perso, je vois pas le problème, dit Arcaelios, avec l'affiche, je savais même pas qu'il était juif. Casey, qui se définit comme a priori proche de LFI, autant la propagande anti-LFI, ça nous casse la tête, autant l'image utilisée, elle est vraiment nulle quand tu sais justement qu'on se fait H24 traiter d'antisémitisme. Voilà. vous appelle un petit peu à l'apaisement dans le chat, en vrai. C'est pas parce qu'ici, on essaie de dialoguer avec tout le monde, y compris les gens qui pensent pas comme moi, que c'est la porte ouverte à toutes les violences verbales. Bertocchi, l'affiche annuelle, le parallèle avec celle du film des années 40 est effectivement visible. Maintenant, il faut voir si cela était volontaire. J'en doute, nous dit Bertocchi. Qui ici connaissait cette affiche de film? Il est possible que celui qui l'ait faite ne la connaissait pas non plus. Les Ramus, c'est sûr que la com est pas vraiment maligne, mais le jeu de la diabolisation de les filles vient principalement de l'extrême droite. Et d'une partie du gouvernement, si je peux me permettre d'ajouter. Rappelons que le président Macron lui-même ne range pas, ne met pas les filles dans le camp républicain. À plusieurs reprises, il l'a dit, quoi. La diabolisation de les filles, elle vient aussi en partie de l'exécutif. Et pas seulement du RN. Ok. Menox, quand tu fais une affiche et que tu agrandis le nez et les oreilles d'une personne juive, ça laisse pas beaucoup de doute sur l'intention. Débat. Moulbit me dit que la photo originelle a été montrée hier par Hanouna. Hein. Bon, j'aime bien aller voir les choses. Photo. On l'a celle-là? Pour voir s'il y a une modification. Parce que c'est un des sujets. On l'a? Vous avez un lien ou pas? Merci d'Andrew. Merci Anastasias. Je l'ai pas moi. Voilà, enfin, comme ça vous avez les termes du débat, quoi. En tout cas, je vois que ça vous fait beaucoup réagir. Pardon, je vois plein de commentaires et très intéressants. Je peux pas tous les lire, il y en a trop, mais merci de participer. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir l'autre photo, la photo non retouchée, quoi. Personne n'a rien. Merci Pifok, mais tu peux pas coller de lien dans le chat, c'est dommage parce que manifestement Pifok l'avait. Tu peux l'envoyer à un modo en revanche qui va me l'envoyer moi. Non mais Pifok c'est hyper intéressant. Est-ce que Pifok tu peux l'envoyer à des modos en DM sur Twitter? Ou en DM à moi, non? Ou en DM à moi? Gauthier Lebray, le compte Twitter de Gauthier Lebray? Attends, je vais voir. On prend le temps ce matin, hein. On est ensemble, on est cool. C'est aussi pour voir comment l'info est faite, comment on peut essayer de la vérifier, tout ça. Je l'ai pas, la Gauthier Lebret, je suis sur le compte, il n'y a rien. Hein. Je dois pas être sur le bon. Hein. Je dois pas être sur le bon Gauthier Lebret, je pense. Ça y est, j'ai le bon, j'ai le bon, j'ai le bon. Ah.
Dans tout le monde. Vous...
Mais j'ai la photo, on dirait. Bon, sur, on, c'est une polémique un peu sur les détails, mais ouais. La photo originelle serait celle de gauche. Voilà. C'est compliqué d'avoir un avis, hein. Voilà, j'avoue que j'ai du mal à. Est-ce qu'elle est... La question c'est est-ce qu'elle est très re... est-ce qu'elle est retouchée? Est-ce qu'elle est très retouchée? Enfin, oui, ils ont changé l'expression du visage, mais on parlait du nez, des oreilles, Et oui, elle est différente. Elle est bien... ouais, qu'elle est retouchée, oui, elle est retouchée. Pourquoi l'avoir retouchée déjà? Oui. Alors ça, oui, elle est retouchée. Retoucher, oui. Ils ont joué sur les ombres. Ouais. Ça, c'est selon l'avocat de Luna, hein. Alors, Defecator qui connaît bien tout ce sujet de fake news. Si c'est la même photo, puisque c'est la photo que met en avant, je crois, l'avocat d'Anna, elle est très, très retouchée. Les rides, les ombres, je ne pense pas que ce soit la même photo, me dit Defecator. Regardez, rien que l'éclairage, l'oreille à gauche, par exemple. Après, la retouche, ça peut faire plein de choses, non? Bon, en tout cas, vous avez les éléments de la polémique. Après, je suis pas sûr que ce soit. Merci Shelton SSB pour le soutien. Comme ça, vous avez les infos. Dommage que l'article de Parisien ne nous l'ait pas dit, quoi. Moi, je pense que cette photo, elle peut avoir été énormément retouchée, quoi. Enfin, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce qu'il y avait. Le sujet, on l'a évoqué. Est-ce qu'il y avait une intention antisémite derrière la personne qui a fait l'affiche? Quelqu'un disait peut-être que la personne ne s'est même pas rendu compte. Est-ce qu'il y avait une intention antisémite? Voilà. Est-ce que dans les propos, les prises de position de LFI ces dernières années, notamment sur le Proche-Orient, est-ce qu'il y a eu des propos, des positions antisémites? C'est ça le vrai sujet, et ça on l'a souvent évoqué déjà. Voilà. Hein, c'est ça, on est très au-delà d'Hanouna d'ailleurs. C'est ça le vrai sujet, le sujet qu'on a déjà évoqué. Voilà. Et la question de fond, c'est est-ce que l'opposition à l'État d'Israël et aux errements de cet État, notamment la colonisation juive des territoires occupés et autres, la guerre menée contre Gaza et la population civile de Gaza, est-ce que l'opposition à tout ce que je viens d'évoquer, est-ce que parfois cette opposition à l'État hébreu, à Israël et à la politique du gouvernement israélien ces derniers mois, est-ce que cette opposition à Israël, à un État, à l'État hébreu, à un gouvernement, est-ce que chez certains représentants élus LFI, cet anti, on va dire sionisme par exemple, peut être qualifié parfois chez certains d'antisémitisme? C'est ça la question, c'est ça le débat, le vrai débat. Alors voilà, certains dans le chat ont dit la réponse est non. Voilà, c'est ça. Usario dit par exemple, LFI n'est pas antisémite. Mais il y a l'antisémitisme dans LFI. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, par exemple. Mais ça, c'est un débat qui pourrait nous occuper pendant 3 jours, quoi. Non-stop, quoi. Par exemple, je vois Ron Sitter qui dit « Non, LFI n'est pas structurellement antisémite. Oui, certains de leurs cadres dirigeants ont eu des propos totalement déplacés à la limite de l'antisémitisme. » Vous voyez la nuance ? Les gens ne connaissent pas la nuance Sam. Si, si, ici, ils la connaissent. Ils la connaissent ici. Voilà pour l'affiche. Bon. Bon, quelque chose de peut-être un peu plus apaisé, mais qui me semble essentiel, c'est les aides aux entreprises en France. Voilà. Et moi, je découvre un truc. Le dossier de l'humanité, il est incroyable ce matin. Le dossier de l'humanité, il est incroyable. Aide aux entreprises en France. Un pognon de dingue, ça vous rappelle peut-être une expression. Ni contrôlé, ni évaluer, et là je suis un peu tombé sur le cul ce matin. Les entreprises reçoivent en France, est-ce qu'elles reçoivent tous les ans 50 milliards d'euros d'aide publique, ou est-ce qu'elles reçoivent 250 milliards d'euros d'aide publique ? Vous allez me dire, attends Samuel, c'est l'un ou l'autre. On est dans un pays un peu évolué, un peu développé, on doit à peu près pouvoir nous dire combien d'argent d'aide publique on donne aux entreprises en France chaque année. Eh ben on ne sait pas. C'est le dossier de l'humanité ce matin. Quelles sont les entreprises qui en profitent le plus ? Les sénateurs ont ouvert une commission d'enquête sur un sujet qui donne le vertige. Aucune administration ne dispose d'une vision claire. On ne sait ni... Attends, on ne sait... Ouais, je commence l'article, pardon. Oula, Talking Tommy... T'es en forme, hein ? On ne sait si les sénateurs membres de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises, c'est une enquête là-dessus, se mettront d'accord sur les préconisations et n'en sont qu'à mi-chemin de leurs travaux, mais quel que soit leur bord politique, leurs réactions furent partagées lors des auditions de hauts fonctionnaires des grands connaisseurs des budgets publics, mine atterrée, les yeux écarquillés. Ils se sont tous exclamés à un moment, vraiment, votre audition confirme la nécessité de nos travaux. Effectivement, leurs questionnaires sont révélés d'une truculence qu'on n'aurait pas anticipée concernant un sujet aussi technique. Avant de finir ses travaux mi-juillet, la commission a déjà entendu des représentants d'administration, de syndicats, des universitaires avant d'interroger le patronat à partir de la semaine prochaine. De combien d'argent parle-t-on ? Voilà. Rien qu'obtenir le montant annuel des aides publiques perçues par les entreprises relève de la gageure. Le premier jour des auditions... le patron de l'INSEE s'est lancé le premier à évaluer les aides directes à environ 70 milliards d'euros par an. Premier chiffre. C'est un montant plancher, précise-t-il donc. Minimum. On dit gageure, je me posais la question, Julioc. On dit gageure. Gageure, c'est gageure. J'avais un doute. Quand je l'ai dit. Gageur.
Gageure.
On dit gageure. La voyelle E est muette. Elle sert simplement à donner le son je, comme dans Georges. Vous dites pas Géorge. On dit gageure. Incroyable. Projet Voltaire, c'est des gens sérieux qui bossent là-dessus. Comment prononce-t-on gageur ? Gageure. Ah, putain, je suis nul en phonétique, moi. Comme dans injure. C'est ça, gageure. Vous avez raison, c'est gageure. Ouais. Ok, let's go. Bravo, merci pour la correction. Merci, Gemalo GG. Merci, Shadeson. C'est intéressant, hein ? Gageure. Ok, très bien. Donc, c'est un montant plancher, 70 milliards d'euros par an. Voilà. Prend-il en compte les avantages fiscaux dans cette somme ? Hein ? Les avantages fiscaux, les abattements de cotisations, les aides européennes ? Non. Okay. Et il dit, je ne sais même pas si quelqu'un dispose d'éléments sur le nombre total de dispositifs d'aide aux entreprises. Comme dans encoignure, Nicolas, le « i » ne se dit pas. Donc on dit encoignure, c'est ça ? C'est incroyable, la langue française est fascinante. Marc Auberger, inspecteur général des finances, aura peut-être les données que nous cherchons. Nous avons constaté un total de 88, on dit en connure, 88 milliards d'euros d'aide de l'État à des administrations de sécurité sociale. Donc, on passe de 70 à 88 milliards par an, auxquels il faut ajouter les exonérations de charges, soit un montant de 80 milliards d'euros, ce qui nous donne déjà un total de 88 plus 80, environ 170 milliards d'euros. Ah. Mais je pense qu'on en oublie, dit ce monsieur. Avant d'ajouter hésitant, il se peut qu'on atteigne 200 milliards d'euros par an d'aide publique aux entreprises. A priori, là, on parle des grandes entreprises, puisque c'est la mission d'enquête du Sénat, quoi. Un consensus semblait s'approcher avec l'audition des économistes auteurs du rapport Un capitalisme sous perfusion qui avait chiffré en 2019 l'ensemble des aides publiques versées aux entreprises. Donc là, on parle de toutes les entreprises. J'aime à l'OGG qui offre 5 abonnements à la communauté. À 157 milliards d'euros par an, ce qui a sûrement augmenté depuis la pandémie. Donc les 250, voire 250 milliards d'euros d'aides par an semblent mettre tout le monde d'accord, y compris les syndicats. Alors, vous avez vu, on est dans le grand flou. Hein. Non seulement il n'y a aucun décompte officiel de la globalité des aides publiques d'entreprise qui est quand même surréaliste, mais il n'y a pas non plus de définition de ce que sont ces aides. L'économiste Maxime Combe, co-auteur du livre Un pognon de dingue, mais pour qui, résume la situation. Il existe plus de 2000 dispositifs. Personne n'a de vision globale. On ne sait pas précisément où on en est. Aide par aide, et personne ne s'y intéresse précisément. Il paraît inconcevable d'en être encore là en 2025. Attention, on est à 200 milliards d'aides par an aux entreprises. À un moment, il faudrait savoir où ça va, quoi. Hein? Si le même constat était fait sur les aides sociales, cela ferait scandale depuis des années. C'est vrai. Marc Auberger apporte quelques éclairages sur les difficultés rencontrées. Chacun identifie assez spontanément les aides directes, qui sont en grande partie des subventions provenant d'une part de l'État, d'autre part des collectivités locales. On compte également parmi les aides publiques des mesures fiscales, des exonérations de cotisations sociales, dit l'inspecteur général des finances. Il pointe aussi d'autres aides indirectes pour électrifier les parcs de véhicules d'entreprise et questionne est-ce que les aides à la formation, par exemple, et à l'accompagnement des chefs d'entreprise doivent être comptées. C'est aussi ce qui rend impossible en état actuel un contrôle d'ensemble. Tout est cloisonné. Tout est cloisonné. Toutes les administrations fonctionnent en silo. Hein. Chacune gère ses propres dispositifs. Merci beaucoup, Gemalo. Oh, c'est gentil. C'est adorable. En 2015, le Conseil d'État avait demandé au gouvernement d'élaborer un document de référence. Voilà. 10 ans après, rien. On évalue tout. Les droits des chômeurs, on les évalue. Les crédits du ministère de l'Environnement, on les évalue. Voilà. Bruno Le Maire dit qu'un euro dépensé doit être un euro efficace. Mais là, on a de 50 à 250 milliards d'euros qui sont donnés chaque année. Voilà, mais on ne sait pas combien. Et on contrôle pas. Et on contrôle pas. C'est un peu fou, s'emporte le rapporteur du Conseil d'État, Fabien Gay. Ah non, Fabien Gay, il n'est pas rapporteur du Conseil d'État, il est rapporteur du... C'est un élu, je crois qu'il est communiste, de l'enquête sénatoriale. Il est sénateur, excusez-moi. Parce que en fait, l'article cite plusieurs personnes. Incroyable. Les sénateurs demandent la création d'un tableau général indiquant quelle grande entreprise touche quoi. Ah non, Gay, il est communiste, non? Il n'est pas socialiste. Quelqu'un me dit qu'il est socialiste. Non, non. Il est communiste. Je crois même qu'il est. Je crois même c'est le directeur de la rédaction de l'Humanité même. Il est communiste. Donc, les sénateurs demandent la création d'un tableau général indiquant quelle grande entreprise touche quoi. L'administration dit non. Voilà. Secret fiscal, secret des affaires. Merci, sœur Big Black Clock. Cloque. Sinon, c'est bizarre. Merci pour le soutien. Incroyable. Alors, débat polémique, débat. Louis Gallois, qui a l'initiative du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, dont on parle beaucoup, estime qu'il faut juger ce très coûteux dispositif, c'est 20 milliards d'euros par an, le CICE, transformé depuis en allègement de cotisations permanents, avant tout à l'aune de la compétitivité, de l'emploi, qui ne sont pas toujours complètement convergents. La compétitivité est l'argument massue pour balayer les nombreuses études qui pourtant font consensus parmi les économistes, démontrant que les allègements de cotisations au-delà d'1,6 SMIC, sont inefficaces. Maxime Combe préfère prendre le problème par l'autre bout. Les entreprises massivement aidées entre 2020 et 2022 ont-elles massivement investi dans l'IA ? Pas vraiment. Dans les technologies de rupture ? Pas davantage. Dans la relocalisation d'entreprises ? Non. La Cour des comptes dresse, elle, un bilan guère plus flatteur des aides à l'innovation. La France, avec le crédit d'impôt recherche, est le pays de l'OCDE qui subventionne le plus l'innovation. Mais dans les classements internationaux, sur le nombre de brevets déposés, notre pays se place en 12e position, 10e en Europe. Et Fabien Gay, donc le rapporteur de l'enquête sénatoriale, dit « Et si nous réservions les aides publiques aux entreprises qui en ont le plus besoin ?» En tant que parlementaire et citoyen, il est choquant de voir qu'une entreprise dont le chiffre d'affaires atteint plusieurs milliards d'euros, donc comme la mienne par exemple, hein, touche des aides. Merci pour vos subs, merci Chamgrat de participer à cet effort, merci Dreadray Super d'ailleurs, merci à tous les deux. Il est choquant de voir qu'une entreprise dont le chiffre d'affaires atteint plusieurs milliards d'euros touche des aides tout en versant plusieurs milliards d'euros de dividendes et annonce la même année un plan de suppression de 2500 emplois. Elle n'a peut-être pas besoin d'aide publique. Le rapporteur aimerait qu'on parle un petit peu de conditionnalité des aides. Nous sommes également favorables au fait de demander un remboursement des aides si la même année des dividendes sont versés et des licenciements effectués. Oui. Pour autant, personne ne préconise la suppression des aides. Il s'agit aujourd'hui du principal outil dont disposent le législateur et l'exécutif pour influer sur l'économie et la conduire là où il veut l'amener, rappelle Maxime Combe. Or, nous nous sommes collectivement fixés des objectifs en matière de décarbonation, de neutralité carbone, d'égalité homme-femme, d'accessibilité de l'emploi. Ok, je résume. D'abord, il faudrait savoir combien ça coûte. Deux, où va l'argent, et pour pouvoir juger si cet argent est bien utilisé ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Intéressant, non ? Cette petite enquête de l'humanité, là. Génial. Madame Bruyant, très intéressant. Travailler dans la statistique publique, dans un autre domaine, cela ne m'étonne pas du tout. Dans beaucoup d'administrations ministérielles, même chapeautées par l'INSEE, les moyens alloués au système d'information et au traitement des données sont assez inégaux et peu coordonnés, même en 2025. Sur certains sujets, la stat publique est sous-dotée, on multiplie les dispositifs et les réformes sans penser l'évaluation. C'est pas mal, hein ? Nicolas, tu as raison, l'info, c'est qu'on n'a pas d'info, exactement. Et parfois, le fait qu'on n'ait pas d'info est une info. Très intéressante. Heroes, Gohan, merci pour le 34e mois. Pas mal, hein ? Il est gentil, Yann Martès, il est très gentil, Wawa. Je ne sais pas ce que vient faire cette question dans mon chat, mais oui, il est gentil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vais me faire un petit thé. Vous m'attendez ? Je vais lancer un petit peu d'eau chaude. On va parler de Parcoursup. Oh, je ne vous mets pas de peau, je ne vous mets pas de pub, vous restez là. Je vous mets même pas de musique, hein, j'arrive. Il est gentil, Samuel Etienne, c'est une crème. C'est un râleur, mais c'est une crème. Ah, enfin, sauf à une époque, quoi, quand il vivait à l'étranger, mais c'est une autre histoire. Merci Sébafil pour le 40e mois d'abonnement. Fio, tu veux un thé aussi ? Ouais. Vous voulez quoi ? Il est grand, ça me tient. Il est immense, le facto, il est immense. Snowwork à Coca, s'il te plaît. Ouais. Nardiland, joli pseudo. Merci pour ce troisième mois. J'ai entendu dire que ça me tient, il avait un melon de dingue, me dit Aldo. Non, ce n'est pas encore la saison du melon. C'est beaucoup trop tôt. Je ne sais pas quel melon tu manges à cette période de l'année, mais on a vu en termes de... sur un plan écologique, c'est pas terrible. Un petit jaune pour Jouboul. Un jean tennis pour Léo. Bravo, Zèbre Noir. J'espère que ça se passe bien, le club. T'as vu, Nicolas ? Bonne journée à toi. Un spéculo, s'il te plaît, à peine trempé dans ton thé. Un thé à la menthe, un petit expresso. Mets une pub tant qu'à faire. Non, je ne mets pas de pub. Pas de pub. Thé vert à la menthe, maté, un petit thé de Noël, 100 balles et 1 mars, un café pour la neuf, Attends, Nicolas, tu lances ta chaîne Twitch? Attends, Nicolas, tu lances ta chaîne Twitch? Nicolas, le plus grand champion de l'histoire de questions pour un champion, 18 victoires d'affilée en émission quotidienne, personne n'a jamais battu ça. Écrit dans notre chat, c'est décidé, mon premier stream, ce sera dimanche. J'ai envie de m'amuser un peu. Je ferai ma routine d'entraînement et de culture générale en direct. Nicolas, donne-moi l'heure approximative de ce stream dimanche, s'il te plaît. Je ferai un stream pour m'amuser, je ne dis pas que ce sera long terme. Peut-être, donne-moi l'heure de ce stream, s'il te plaît. S'il te plaît. Dimanche, on a noté tous, mais quelle heure? Quelle heure? À partir de 17h. Ok, attends. Je me le note, je me le note, je me le note. Mon journal électronique. Oui, c'est Nicolas de question pour un champion. Oui. Juste avant mon simplet dimanche. Oh, j'ai un simplet qui arrive dimanche, là vous voulez pas rater avec Ninion, ça va être terrible. Attends, attends. Donc 17h, hein. 17h, Nicolas. Et donc le pseudo, c'est Nicolas underscore note, c'est ça? Attends, t'es où Nicolas? T'es où Nicolas? Nicolas underscore note, c'est ça? Nicolas. Pourquoi d'ailleurs ce nom-là, Nicolas Note? Parce que tu prends des notes? Trop bien, je vais te raid avec mes 10 000 follow. Attends, t'as 10 000 followers déjà? T'as déjà 10 000 followers? J'y ai cru, putain! Je dis waouh! Incroyable. Incroyable. Vous savez, on va épingler. Hop, j'ai la chaîne de Nicolas, je vais vous l'épingler. Voilà, elle est là-haut. Voilà. Nicolas, le plus grand champion de l'histoire de questions pour un champion, est en stream, a priori, à partir de 17h. C'est une variation sur mon nom de famille. Hein? Ok. Donc, est en stream à partir de 17h. Voilà. Juste avant le simplet. Voilà, vous avez sa chaîne en haut, vous n'avez plus qu'à la follow. T'as juste mis Twitch. Bah oui, c'est sa chaîne. Ah non, mais il faut cliquer, chouchou. Il faut lire tous les. C'est comme dans les articles. Il y a Benoît qui dit, t'as juste mis Twitch. Non, en fait, il faut lire tous les caractères. C'est comme les journaux, il ne faut pas lire que les titres. Hein? Twitch.tv/Nicolas_note. Il faut juste cliquer. Ah, t'es sur téléphone. Ah bah oui. Voilà. Voilà, vous l'avez aussi dans le chat. Et voilà. Et ce sera juste avant un joli stream, un joli simplet. Regardez comme c'est beau ça. Regardez si c'est pas beau. Regardez comme c'est beau. Ninion. 10 ans qu'elle vit au Japon. Hein. Notre amie française, mesdames et messieurs. Créatrice de contenu. Elle est actrice aussi. Elle a tourné dans des séries au Japon. Merci, j'ai mal au GG. Tu régales ce matin. Merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Elle a fait des pubs, elle a fait des séries. Voilà. Elle est streameuse, bien sûr, créatrice de contenu, gameuse. Voilà. Elle est de passage en France. Elle vient à la maison. Dimanche soir, elle me fait découvrir Age of Empires 4. Ça va être incroyable, quoi. Pleine découverte. J'ai jamais lancé le jeu. Ça va être super. 20h. On parle souvent. Elle est quelqu'un d'exceptionnel, vous le savez. Voilà. Donc, ça, c'est dimanche. À 17h, vous avez Nicolas. Et puis, il y a un autre stream, il faut absolument vous passer, c'est la semaine prochaine. Là, je compte sur vous. Venez là. Voilà. Avec quelqu'un que Nicolas très bien, connaît très bien, qui s'appelle Étoile. Le 19 mars, donc je crois que c'est mercredi prochain, à vérifier à 19h30, un grand quiz. Voilà. Mais sur des questions éco et financières, on va parler de thunasse. Voilà. Alors, il y aura des questions de culture générale, des questions de culture pop. Mais aussi des questions un petit peu sur l'argent, on va bien rigoler. Et ça s'appelle Réponse Cash. Voilà. Et il y a, excusez du peu, il y a Le Rayou, il y a Étoile, il y a Dwagby, il y a Henri Tran, il y a Natou, il y a Catsup. Pardon, pardon. Voilà. Donc ça va être super, on va bien rigoler. Les questions, je les ai vues, elles sont super sympas. Ça parle pas que de questions financières, ça parle vraiment de la vie quotidienne, de tout. Et ça va être vraiment sympa, quoi. Ouais. Tu présentes, tu participes, je présente, je présente, je présente. C'est sur ma chaîne. Je présente. Pas mal, hein? Il y aura Rayou et Étoile, ouais, il y aura les deux, ouais. Il y aura Ryan, Rayou et Étoile. Ils seront trois. Étoile, est-ce que pas de fumer tout le monde? Ben si, il est fort, c'est pour ça qu'on l'invite aussi, bien sûr. Étoile qui dont on va voir le 22 mars. 22 mars. La prestation en question pour un champion, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a gagné une émission? Est-ce qu'il... Attends, allons dans l'ordre. 22 mars, 18h10, France 3, c'est un samedi. Est-ce que Étoile a passé le 9 points gagnant? Est-ce qu'il a passé le 4 à la suite? Avec quel score? Est-ce qu'il est arrivé au face-à-face? Est-ce qu'il est éventuellement passé par un jeu décisif? Est-ce qu'il a gagné le face-à-face? Est-ce qu'il est revenu le lendemain? Est-ce qu'il a enchaîné avec d'autres émissions? Le suspense est total. Personne n'a communiqué là-dessus. Étoile n'a rien dit. Je n'ai rien dit. Verdict. 18h10. Samedi 22 mars. Sur France 3. Et après, on fait un react. Pas un react en live. Parce qu'en fait, on va pas piquer les téléspectateurs à France 3. Donc pas de react en live. React juste derrière. L'émission va se terminer un petit peu avant 19h. Et bam. Et on fera le replay de l'émission. Puisque j'ai demandé l'autorisation à Fremantle. Et donc on aura je ferai juste après le replay, le react, et on regardera ensemble le truc. Voilà. Ça va être topissime, ça va être topissime. Est-ce que Étoile tourne encore? Ouais, peut-être, on sait pas. Ouais. Ça va être incroyable. React avec Étoile? En fait, je pense que Étoile va le react. En fait, Étoile m'a pas proposé pour l'heure de le react avec lui. La nuit de la culture, c'est-à-dire le react à question pour un champion, c'est Rayou. Voilà. Donc il va évidemment react sa propre émission et je veux pas m'imposer. Donc si Étoile veut qu'on le fasse ensemble, on le fera ensemble. Mais à mon avis, il va le react de son côté. Et je pense que c'est un moment privilégié qu'il va avoir avec sa communauté, avec ses viewers et pas forcément avec le présentateur de l'émission. Je pense qu'il va vous raconter son sentiment sur cette émission très importante pour lui et qu'il n'a pas envie d'avoir le présentateur de l'émission dans les pattes, quoi. Donc je pense que c'est bien que Étoile fasse son react en vrai, quoi. Voilà. Il a dit le lendemain? D'accord. Ce sera formidable, quoi. Ça fait presque 10 ans maintenant, Wawa, que je fais cette émission. Ouais. Ah ben justement, je vais au Wawa moi aussi. Oh, incroyable. Je vous laisse avec ma chaise. Je vais me faire un petit thé. J'ai trop fait de... J'étais hier soir. J'arrive. Je vous mets pas de pub, pas de musique, vous restez entre vous. À tout à l'heure. Je vous vois avec vos sloubis, hein. Je vous vois avec vos sloubis, hein. Merci Bobine Bookin. Il est pas beau ce pseudo. Bobine Bookin. Merci pour le 32e mois. Merci pour l'abonnement offert à la commu. Salut Talking Tommy. Ouais, t'es gentil. Bon, j'ai fait le plein. Enfin, j'ai fait le plein. Enfin, j'ai fait les deux, quoi. Et je me suis lavé les mains. Ah. Alors, on va parler de Parcoursup. Camille qui régale, qui offre 5 abonnements à la commune. Vous êtes incroyable. Merci Camille de ton soutien. Renouvelé sans arrêt pour cette chaîne. Alors, Parcoursup. Alors, Parcoursup, souvent critiqué. Du stress. Du flou. Sachez que, bon, pour les vieux comme moi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. C'était un peu. Tu t'inscrivais où tu pouvais, où tu. Ouais, il fallait un vrai déficit d'information à mon époque. Il n'y avait pas tout ça. Et c'était vraiment compliqué de savoir. Donc il fallait être renseigné, aller chercher des dossiers. Enfin, à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc, cet article du Monde, signé par Sylvie Le Charbonnier, qui est journaliste au service Société du Monde, ne le conteste pas. Dit qu'effectivement, on est beaucoup mieux informé qu'avant. Pour l'orientation, hein, pour l'étude supérieure hein, après le bac. Mais il y a quand même un problème. Voilà. Beaucoup d'informations, mais un déficit de conseils. Et ça avantage certains jeunes et certaines familles et désavantage d'autres. Et ça, c'est assez intéressant. Djouboul, c'est quoi cette pluie de sub? Vous êtes incroyable. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, merci de ce soutien. C'est important. Ça fait du bien, en fait. Merci Djouboul, merci beaucoup. Merci à tous. Avant, c'était vraiment le bazar. Ouais. Alors c'est un peu mieux en termes d'infos, mais c'est pas encore top. L'article que j'ai trouvé vraiment très intéressant et assez intelligent. C'était une promesse de la réforme du lycée et de la loi relative à l'orientation et de la réussite des étudiants de 2018, améliorer la transition entre, tiens je peux lire sur l'écran, c'est bien aussi, entre enseignement secondaire et supérieur et instaurer un continuum bac moins 3 plus 3 selon le jargon institutionnel. Ok. Parcoursup et mon master de catastrophe. Alors, Parcoursup, catastrophe, avant c'était pire, en fait. Avant c'était pire. En fait, je dis pas que Parcoursup c'est bien, hein, mais en fait, avant c'était encore moins bien. Pour ceux qui ont connu les systèmes d'avant. Tous les vieux vont me confirmer ça, en fait. Donc, je dis pas que c'est génial, mais avant c'était vraiment moins bon, quoi. Ça va, ZTV? Oui, APB, mais même avant APB, quoi. APB, c'était pire, mais avant APB, il y avait encore moins bien. Hein? Ah, Ravel et APB, c'était bien. Quoi, du temps du Minitel, tout ça? Il y a des soutiens d'APB, d'admission post-bac. Et Insomniac dit, c'est juste que les critères étaient inconnus avant, alors que là, ils sont connus et donc critiqués. Intéressant ce débat. Kiné22 me dit, c'est pas obligatoire de toute façon cette plateforme, je suis passé par aucune plateforme pour mon BTS et pour ma licence. Maintenant, le système a un nom, on peut donc le détester. Avant, on envoyait nos dossiers aux écoles directement. Ouais, mais c'était compliqué, non? La première année d'APB, c'était la cata. Au moins, les choix étaient faits avec APB, avec Parcoursup, c'est flou jusqu'à la rentrée. APB, c'est admission post-bac, ouais, c'est Safio. All right, lisons. Donc c'était une promesse de la réforme du lycée et de la loi blablabla, améliorer la transition entre enseignement secondaire, donc le lycée, et l'enseignement supérieur. 7 ans plus tard, des cours d'essai à l'université pour les lycéens ou l'immersion d'enseignants-chercheurs dans des lycées ont été organisés ici et là, mais ces initiatives locales peinent à faire système et à s'aimer sur tout le territoire. Les deux mondes, donc enseignement secondaire, le lycée, tout ça, et les études supérieures, se côtoient toujours peu et tout le processus d'orientation s'en trouve grippé. En dehors même du mur que présente Parcoursup, dont la phase de formulation des vœux se termine jeudi 13 mars au soir, donc c'était hier soir, l'accompagnement des jeunes pêche à chaque étape. Ce que dit cet article, c'est que l'accompagnement des jeunes pour choisir l'orientation future, elle n'est toujours pas terrible. L'orientation commence dès la troisième avec la bifurcation entre voie générale et technologique d'un côté, voie professionnelle de l'autre et poursuivre en seconde avec des choix des spécialités, comme vous le savez. Une fois ces choix effectués, qu'ils soient désirés ou subis, il sera très difficile de revenir en arrière. Les professeurs principaux voient chaque année les portes de filières se refermer parce que tel élève n'a pas pris telle spécialité ou parce que tel autre aurait été plus à l'aise en voie professionnelle qu'en voie générale. Face à ces décisions vécues comme déterminantes, les 54 heures annuelles, c'est bien ça ? Les 54 heures annuelles consacrées à l'orientation, prévues par la réforme du lycée, n'ont jamais été mises en place. Ah, c'est moins bien ça. Je me disais, moi, j'ai pas eu 50. 54 heures annuelles au lycée pour l'orientation ? Ah, moi, j'ai pas eu ça, moi. Alors, ça a été mis en place, mais ça n'a jamais été effectif. Faute de quoi ? De financement et d'inscription dans les enseignements obligatoires. Les professeurs principaux, s'ils peuvent désormais être deux en classe de terminale, ne sont pas formés à l'orientation, ce qui est bien dommage quand même. C'est dommage que les enseignants ne soient pas formés à l'orientation. Moi, au lycée, je ne sais pas si ça a changé depuis, 1989, mon année de terminale, pendant l'année de terminale, on ne me parle pas d'orientation. On ne me parle pas des études supérieures. Hein. La vie s'arrête après le bac. Voilà. Tu passes ton bac et c'est terminé. Hein. Tu as l'impression au lycée qu'il y a le bac et après c'est la retraite. Tu passes ton bac, tu as 17 ou 18 ans. Et en juin, fin juin, c'est fini. T'es en vacances. C'est la retraite. Tu vas pas faire d'études et tu vas pas travailler. Alors, je sais pas si ça a beaucoup changé, mais c'était ça. On me parlait jamais d'orientation. Moi, j'ai découvert... je suis rapidement passé par... j'ai fait des études de sciences politiques. Mais j'ai rapidement découvert au début de mes études, après le bac, l'existence d'un truc qui s'appelait Hippocagne, Cagne, l'aide supérieure, classe préparatoire... J'ai découvert ça alors que j'avais commencé mes études supérieures, alors que j'étais un pur littéraire et que j'adorais, j'étais un passionné de littérature, de poésie. Et je découvre l'existence de ce qu'on appelle les classes préparatoires supérieures littéraires, ce qu'on appelait Hippocagne 4. Je découvre ça alors que mes études supérieures ont commencé. Parce que personne ne m'en a jamais parlé dans le lycée, quoi. Mais nom de Dieu ! Voilà. Et je soupçonne que ça n'ait pas beaucoup changé. Il y a Rama qui dit, c'est toujours pareil, ça veut rien à changer. Alors j'étais dans un grand lycée, il y avait 12 classes de terminale, c'était pas un petit établissement. C'est ouf, quoi. Voilà. Donc voilà. On pouvait parler d'orientation avec mes profs, mais c'était forcément notre propre initiative. Ah, ok. Alors j'étais en filière technique, donc dans mon cas, ça a beaucoup parlé des BTS, tout ça, me dit Yunia. Ça, c'est cool. Idem, moi, 90, il a fallu que j'aille à la pêche aux infos moi-même sur post-bac. Salut Samuel, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire et qui se retrouvent forcées de juste aller dans le domaine où elles sont plus fortes car elles n'ont pas de passion. Regarde une émission sur Twitch qui s'appelle MVP, MVP, Ma Vie Pro, qui parle de l'orientation des métiers et tout ça. C'est deux fois par mois. Sur la chaîne Twitch, comment il s'appelle le beau gosse là ? Comment il s'appelle ? Attends, c'est qui le mec qui fait MVP sur Twitch là ? C'est le mec qui ressemble un peu à Brad Pitt là ? Si, le beau gosse là. Non, pas Pepe Garcia, l'autre. J'ai plus le nom, mais c'est un crack. Oui, c'est un comme ça. Bon, vous voyez ce mec là ? Non, pas Zerator, l'autre. Non, pas Jean Massier, l'autre. Comment ça, Brad Pitt de Wish ? Eh, je t'emmerde, tu que le manchot. Hein. Bref, j'ai une émission là-dessus qui parle de ça deux fois par mois. Donc, les professeurs principaux ne sont pas formés à l'orientation et tout repose sur leur bonne volonté dans cette tâche souvent chronophage. Ils ne peuvent pas tout faire non plus. Hein. Leur connaissance des métiers s'en trouve limitée. À leur côté, les psychologues de l'éducation nationale chargés d'aider à l'orientation des élèves ne sont pas assez nombreux pour remplir correctement leur mission. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Hein, quand même. Les échanges entre les équipes pédagogiques des lycées et de l'enseignement supérieur sont par ailleurs encore peu développés et souvent faiblement structurés selon un rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale. Alors, rien d'impossible pourtant, il y a des solutions. L'Académie de Lille, par exemple, fait figure de référence. La transition entre le secondaire et le supérieur y est structurée. Alors, dans l'Académie de Lille, eh bien, il y a des trucs sympas. comme quoi c'est possible. Vous avez une cellule de 12 psychologues de l'éducation nationale rattachée au rectorat qui maille le territoire, qui propose des formations aux professeurs principaux en lien avec les homologues du supérieur, tandis que des enseignants-chercheurs participent à des tables rondes d'information dans des lycées. Alors que ce manque de suivi est patent au niveau national, le paysage de l'enseignement supérieur s'est morcelé, s'est complexifié, à la fois en raison d'une volonté inscrite dans la loi de personnaliser les parcours et aussi de l'essor de l'enseignement privé. Donc il est plus difficile aujourd'hui pour les jeunes et leurs parents de se retrouver dans le maquis des formations. Il y a beaucoup plus de formations privées qu'avant, quoi. Pour les inspecteurs généraux, la diversification de cette offre de formation s'est réalisée au détriment de sa lisibilité. Qui peut comprendre d'emblée la différence entre les bachelors proposés par les IUT, les bachelors d'école de commerce qui disposent d'un grade de licence délivré par l'État et les obscurs bachelors d'écoles privées non reconnues par l'État? Jamais pourtant les élèves et leurs familles n'ont eu accès aux taux d'information. Les fiches Parcoursup qui détaillent pour chacun le taux d'accès, pour chaque formation, le taux d'accès, le rang du dernier admis, le taux de boursier, le taux de réussite, le taux d'insertion professionnelle, le taux d'hémoglobine, non. Si cette transparence est louable, elle possède aussi son revers, elle déboussole les familles qui ne maîtrisent pas bien ces codes. Hein ? Les responsables de Parcoursup parient sur la capacité des utilisateurs, donc les jeunes et leurs familles, à s'emparer d'un nombre croissant de données. Or, les jeunes ont moins besoin d'une masse d'informations que de conseils désintéressés, explique une sociologue. Sans un accompagnement à l'orientation, il n'y a pas de véritable démocratisation de l'enseignement supérieur. S'en sortent donc les plus forts et les mieux rémunérés. Inégalité. Inégalité sociale, donc inégalité géographique. Les lycéens des grandes villes disposent de davantage de dispositifs d'aide et d'accompagnement. Social, les élèves et leurs familles laissés en grande partie seuls dans leur choix n'ont pas tous les mêmes armes pour décrypter leurs chances de succès selon les formations. Hein, c'est une évidence, mais il faut le rappeler. Pas mal, hein, l'article, là. Vous n'avez peut-être rien appris, mais c'est intéressant. Delphine me dit, j'ai eu un rendez-vous avec une conseillère d'orientation. Bien ça. Mais j'aurais fait un test de personnalité sur Marie-Claire Magazine, ça aurait été la même chose. Ça, c'est vraiment bien. Eh oui. Mais oui, bien sûr. Sam Cooke, c'est surtout plus difficile pour les personnes issues des milieux les plus défavorisés en ayant peu de capital scolaire ou culturel. Les autres savent où aller. Il me paraît que ça fait des décennies que c'est comme ça. Bourdieu en parlait déjà dans les 70, bien sûr. Mais l'article le rappelle. Moi, je suis conseiller en formation, me dit Gomarmar, donc une spécialiste de la question. Et putain, voilà, enfin quelqu'un qui dit les termes. Et putain, c'est trop le bordel, les bachelors, les masters, etc. Voilà. Merci de dire les termes. Voilà. Très bien. Bravo le monde. Comme quoi, parfois. Alors. Putain, elle est longue la revue de presse ce matin. J'aurais des trucs à vous raconter, c'est fou ça. Bon, j'ai encore un petit peu de temps. Vous avez entendu parler de cet immense projet immobilier économique de fou en Arabie Saoudite là, qui s'appelle Neom, hein, le projet de mégalopole futuriste en plein désert, hein, saoudien, eh bien, il prend l'eau. Alors, je ne sais pas qui a fait ce titre. Comment un projet immobilier dans le désert peut prendre l'eau? Oui, c'est The Line, mais c'est tout ce qu'il y a autour de The Line. Ça n'a pas été abandonné, Framboise, tu vois. Alors, je ne sais pas qui a fait ce titre, mais un projet immobilier dans le désert qui prend l'eau, bon, je ne sais pas. Je suis pas convaincu. Mais bon. C'est un article du Wall Street Journal qui a été traduit dans l'opinion. Ouais. C'était censé être l'événement fêtant l'entrée de l'Arabie Saoudite dans une nouvelle ère. Will Smith. Waouh. Tom Brady. Waouh. D'autres célébrités, dont un certain Samuel Etienne. Ah, c'est moi qui l'invente ça. S'étaient retrouvés sur les plages de sable d'une île de la mer Rouge regorgeant d'hôtels de luxe. Mm-hmm. Des yachts de luxe, dont le mien, mouillaient non loin, tandis qu'Alicia Keys se produisait pour des hommes d'affaires venus de Londres et de New York. Ça va bien, hein ? Ça va bien. Les faisceaux de lumière des projecteurs zébraient le ciel nocturne. Qu'est-ce que c'est que ce truc dont parle le journal ? Cet événement qui s'est tenu au mois d'octobre marquait l'inauguration somptuaire de la première section de Neom. Donc le truc, il n'est pas abandonné. Hein. Cette métropole, caractérisée par une technologie de pointe et une architecture psychédélique, est la pierre angulaire de la stratégie de renouveau de l'économie saoudienne qui veut s'affranchir de sa dépendance vis-à-vis du pétrole. La réalité du projet est hélas moins reluisante. Le yacht de Samuel Etienne payé avec les notes de frais de France Télévisions. Bien sûr, Tiflo. Exactement. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début de ce stream. L'exécution du complexe relativement simple et ne s'élevant pas très haut au-dessus du sol, également appelé Sindala, donc le premier élément de Neom, là, avait déjà plus de 3 ans de retard, était en passe de coûter près de 4 milliards de dollars, soit 3 fois le budget initial. Les hôtels n'étaient pas terminés pour la teuf, là. Des vents violents gênaient le fonctionnement des ferries et du golfe. De plus, une grande partie du site était encore en construction. Étonnamment, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, MBS, qui a imaginé Neom, était absent. Le gars qui a conçu le concept, il n'était pas à la teuf d'inauguration d'un bout du concept. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Selon les documents issus du conseil d'administration de Neom, la fête qui a coûté au moins 45 millions de dollars, la fête a coûté 45 millions de dollars. La teuf. Et pourquoi on n'est pas invité ? 45 millions de dollars. Et pourquoi on n'est pas invité ? Et pourquoi nous, on ne peut pas croquer un petit peu les petits fours, les trucs, là ? Hein ? Ça fait beaucoup d'apéricubes. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Hein ? Ça en fait des chips. C'est honteux ! Ouais. 45 millions de dollars à la fête et MBS n'y était pas. Bizarre. De nombreux membres du personnel de Neom ont estimé que le prince héritier avait montré sa désapprobation en ne venant pas à l'événement. Quelques semaines plus tard, celui qui était le patron de Neom depuis 6 ans, un ancien membre de l'entourage du prince, a démissionné. Et une nouvelle équipe de direction chargée de redresser le projet a été mise en place. Après des dépenses de plus de 50 milliards de dollars, la réalité est venue heurter de plein fouet les rêves du prince héritier, proche de la science-fiction, avec une station de ski bâtie sur une montagne aride. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer de faire une station de ski en Arabie Saoudite ? Hein ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Un quartier d'affaires flottant sur l'eau et un duo de gratte-ciel de 170 km de long et aussi haut que l'Empire State Building, baptisé The Line. The Line, la fameuse... Pierre maîtresse de Neom, quand on a vu les premiers croquis, on était en mode ouais, c'est quoi cette histoire quoi. Les coups ont. Alors, il y a Wader qui dit mais qu'est-ce qui s'est mal passé ? Eh ben, ça arrive. Les coups ont explosé. Tout est en retard. De plus, la décision prise l'an dernier de réduire la voilure concernant la première phase de Neom menace de priver la ville du désert du nombre critique d'habitants pour en faire un centre d'affaires moderne. À l'origine des aléas rencontrés par Neom, un bal marqué par un aveuglement réciproque où le prince héritier a poussé à l'élaboration de plans extravagants, hein, tandis que les opérationnels ont voulu le préserver, ne pas fâcher le prince, en lui cachant l'ampleur des défis et des coups. T'imagines, le gars, il dit, le MBS, le prince, il arrive avec des plans de fou, il va faire un truc de psychopathe qui va marquer la planète, et les conseillers, plutôt que lui dire ben non, c'est trop compliqué, ou non, c'est trop cher, ou les deux, ils disent pas. Ils disent pas parce qu'ils veulent pas fâcher le prince. Aïe. C'est ce que disent d'anciens salariés et un rapport d'audit interne. Des conseillers qui conseillent pas, bah voilà. Waouh. Signe des ambitions colossales. Un projet de présentation au conseil d'administration datant de l'été dernier, évalué à 8 800 milliards de dollars, soit 25 fois le budget annuel de l'Arabie Saoudite, les dépenses d'investissement nécessaires pour achever la construction de Neom en 2080. Les gars. À 370 milliards de dollars pour quoi ? Pour réhabiliter pour réaliser la première phase seulement du projet. Ça fait combien de subs? Je sais pas. Beaucoup. Waouh. C'est beaucoup, hein. Le prince héritier a comparé le projet aux pyramides d'Égypte. L'idée, c'était qu'il y avait une philosophie derrière ça. Hein. C'est pour. Les responsables saoudiens ont commencé à parler de NEOM comme un investissement de très long terme qui portera ses fruits dans les décennies à venir. Futur moteur de l'économie à partir de 2030. Le pays a longtemps affirmé que sa stratégie économique Vision 2030 comportait de nombreux objectifs très ambitieux. On parle de The Line, hein. The Line qui est revue à la baisse. Hein. Les dirigeants de NEOM ont prévu de réaliser 16 km seulement de The Line d'ici à 2030. Pour cela, il faudrait construire l'équivalent de tous les immeubles de bureaux de Midtown Manhattan, trois fois, hein, en une décennie. Une grande partie de l'acier et des vitrages disponibles dans le monde entier serait disponible pour le chantier. Incroyable. Bon, je vous passe le passage sur la station de ski. Hein. Dans le plein milieu du désert, les coûts ont explosé, quoi. Alors pour ceux qui vont faire du tourisme là-bas, du coup, ils sont en train de réviser les coûts à la hausse. Le prix d'une nuitée dans un hôtel boutique pour randonneurs a été révisé à la hausse. On était sur 489 dollars là, à la base, et maintenant on est plutôt sur 1800 dollars pour les randonneurs. Les randonneurs. Et pour une nuitée sur un terrain de camping original, alors là-bas, ça devait être 216 dollars la nuit de camping, puis en fait, ce sera 704 dollars. Bah oui, parce que comme tout est plus cher, c'est l'inflation, ça, ma pauvre dame. C'est ouf. La hauteur de The Line. Hein, la barre d'immeuble là. 500 mètres a été l'un des principaux paramètres ayant causé une hausse des coûts. Les défis en matière d'ingénierie et de construction font qu'il est difficile de rentabiliser la construction de tours de grande taille où que ce soit et encore plus dans le désert. Les employés de NEOM ont demandé à plusieurs reprises à leur direction de réduire la hauteur de The Line d'environ 300 mètres pour en réduire les coûts. Qui veut randonner dans le désert? Tu sais, cet hiver, moi je connais des gars, ils ont couru deux fois une course de 250 km dans le Sahara. Faut pas questionner, hein. Il y a des gens qui sont complètement tofolos, hein. Il y a des gens ils sont pas bien clairs dans leur tête. Hein. Faut pas, c'est l'humain est étrange, hein. L'humain est étrange. Faut pas questionner ça. À Sindala, le complexe touristique construit sur l'île, le complexe touristique n'est toujours pas achevé. Les employés des restaurants passent le temps en lisant des livres, c'est bien ça, sans avoir de clients à servir. 4 mois après, le terrain de golf et les hôtels sont toujours pas ouverts au public. Ouais, pour l'instant, c'est pas top top ça. Qu'est-ce qu'on m'appelle ce matin? Qu'est-ce que je reçois comme coup de fil? Ah oui, c'est la journaliste de tout à l'heure. C'est quoi le sujet 104? Ah oui. C'est toujours pareil, on me demande de raconter Twitch, tout ça là. Hein? Pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est fou, hein, cette histoire. Alors, il nous reste deux choses. Bill Gates, il écrit un, comment on dit, ses mémoires, c'est ça, enfin un livre qui parle de lui. Voilà. Et après, un petit peu de Formule 1. Pas le temps, j'ai Valorant. Non, j'ai Valorant, c'est fini. Merci, Goubi. Djouboul, je t'ai remercié pour les 5 abonnements faire la commu. Merci, Djouboul. Non, Valorant, c'est fini. Ce jeu est trop compétitif. Mon niveau monte, mais le niveau des autres monte plus vite. C'est finito. Voilà. Je vais consacrer tout mon temps de Valorant à la découverte d'autres jeux. Voilà. Ça a commencé par GTA hier soir que j'ai relancé. Ce soir sera du GTA aussi, mode histoire. Non, non, non. Non, non. J'ai aimé passionnément Valo, mais le jeu est trop compétitif. Je progresse pas assez vite. Ouais. Je passe à quoi? Bah, tous les autres jeux, SDF. Alors, il paraît qu'il y a 2-3 autres jeux vidéo à part Valo. Je commence à paniquer, c'est une blague, l'arrêt de Valo. Non, 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 mais voilà, enfin, à un moment, il faut être raisonnable, quoi. Je l'ai annoncé hier, pour ceux qui étaient là, hier après-midi. Je l'ai annoncé hier après-midi, hein, c'était ma dernière game de Valo. Non, non, mais c'est trop. Le jeu est top, hein, mais le niveau du jeu est trop élevé. Je progresse pas assez vite, quoi. Donc là, les gars, je suis bronzin, ça fait un an et demi que je joue, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce temps, je vais être raisonnable et il faut que je vais l'investir. Rassurez-vous, c'est du troll, les gars. Arma, je peux pas. Non, franchement, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Non, on va faire d'autres jeux, on va faire d'autres jeux. Des jeux, il y en a plein. Merci Jean Mouldeux pour le 8e mois. C'est bien. Non, puis ça va, je l'ai bien. Il devrait être content, Rayos, je l'ai poncé le jeu. Hein. Merci Eolia pour le prime. Ah, ce soir, c'est GTA. GTA mode histoire. Je suis régalé hier soir. Oui, une pause à durée indéterminée, si vous voulez. Alors, tant que tu prends du plaisir, le rank, on s'en fout. Bah, justement, c'est peut-être le problème d'être aussi bloqué à mon rank depuis ever. Ben, le plaisir, il est moins fort. Ouais. Ouais. Je me suis plus marré sur GTA hier soir, par exemple. J'ai un peu retrouvé du plaisir, quoi. Non, c'est trop, le niveau est trop élevé. Le niveau est trop élevé. J'ai trop de retard, quoi. Trop de retard. Mais Valo m'a sûrement appris beaucoup en termes de réflexes, de plein de trucs qui vont servir sur d'autres jeux, quoi. Le dégénéré qui t'a insulté, il y a pour quelque chose. Tu sais, des dégénérés dans le chat, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai tous les jours quand même. Et ça me dégoûte pas de Twitch pour autant, quoi. Non, non, c'est vraiment moi qui me suis un peu fatigué de Valo. Ouais. On dirait que tu parles d'un divorce. Ah bah je suis triste en vrai, ça m'attriste vachement. Hein. Je suis hyper triste en fait. Parce que j'ai vraiment adoré cette séquence, mais là je crois que je suis allé au bout de mon arc Valo en fait. Ouais. Ouais. Mais ça me rend triste en plus. Hier soir, j'étais déprimé. Hein. Mais des autres jeux, par contre, tout le temps que je mettais sur Valo, bah, je vais l'investir sur d'autres jeux. Ça, c'est cool. Peut-être que dimanche commence un nouvel arc, d'ailleurs. Très bonne remarque. Peut-être que dimanche commence un nouvel arc. Peut-être que le nouvel arc, c'est ça. Merci Stornat pour le soutien. Hein? Peut-être qu'il y a un arc Age of Empire qui commence dimanche, on ne sait pas. Ah mais ouais. Ah ouais, bah les skins, c'est foutu les skins. Non, puis peut-être que je vais jouer en solo en vrai. Peut-être que je vais jouer en solo, que de temps en temps je ferai une petite game. Là par exemple, si j'ai non, j'ai une réunion à 14h30, là si j'ai une demi-heure, je pense que je vais aller me lancer un deathmatch, quoi. Mais que pour moi, quoi. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Puis de toute façon, il y a la Zilane qui arrive. Si jamais je décide de la faire, il n'y a aucune chance que Valo soit dans la Zilane de Zera. Samedi soir, 20h, Zera fait son live où il annonce les jeux de la Zilane, l'organisation, les règles de la Zilane 2025. Je le réacte en direct avec l'autorisation de Zerator. Et à l'issue de ce stream de samedi soir, je décide si je fais la Zilane ou pas. Il n'y a aucune chance qu'il y ait Valo dans cette Zilane. De toute façon, le mois qui arrive après, là, je vais poncer plein de jeux, quoi. Il va être top, ça. Je vais découvrir plein de jeux, ça va être terrible. Ouais. Il y a eu Valo il y a 2-3 ans, ouais, c'est pour ça que je pense que Valo va parvenir. Ouais. Après, je vois l'air malin si Zera met Valo là, dans la Zidane 2025, alors je viens d'annoncer que j'arrêtais Valo. Ça, ce serait juste énorme, quoi. TFT, j'aimerais bien, ouais. Je serais pas forcément fort, mais du coup, je connais le jeu, ouais. Allez, on parle de Bill Gates. Donc, il y a un bouquin qui sort sur lui, qui est une biographie, en fait, signe de lui. Code source, mes débuts, de Bill Gates. À 69 ans, Bill Gates nous livre son autobiographie de son enfance de semi-autiste aux circonstances qui ont fait de lui l'homme le plus riche du monde pendant 2 décennies avec humour et humilité. On croyait tout savoir de William Gates III, Bill pour le public, de ses débuts avec Paul Allen pour écrire le logiciel BASIC à sa reconversion philanthropique. Attends, BASIC ? Le BASIC, c'est lui ? Attends, le truc de programmation basique, c'est lui ? Je savais même pas ça, moi. C'est ouf. Mais à 69 ans, l'entrepreneur le plus célèbre du XXe siècle n'avait pas encore raconté avec ses mots à lui son enfance compliquée de semi-autiste, c'est lui qui le dit. Et l'enchaînement de circonstances qui a fait de lui l'homme le plus riche du monde pendant 2 décennies. Maintenant, il a été remplacé, vous le savez, quoi. Le plus étonnant est pas qu'il l'ait fait, Gates avait sûrement depuis longtemps envie de donner sa version d'épisode maintes fois raconté et déformé par d'autres. La surprise, c'est, nous raconte le journal, c'est quel journal ? C'est Les Échos. La surprise, c'est l'humilité et l'humour qui imprègnent son récit. J'ai la ref. C'est pas lui qui a écrit le titre d'Orelsan ? Basique, vous l'avez ? Simple, basique. La surprise, c'est l'humilité et l'humour qui imprègnent son récit. À 9 ans, Trey, donc c'est lui, devient, racontait son père, un adulte du jour au lendemain, à 9 ans, un adulte ergoteur, intellectuellement péremptoire et pas vraiment sympathique. Donc ses parents racontent qu'à 9 ans, le gars, il est insupportable. Un adulte qui juge arbitraire, par exemple, le pouvoir parental et refuse d'obéir. À 9 ans, Bill Gates dit à ses parents, je refuse votre arbitraire, je refuse d'obéir. J'adore. J'aime ça. Voilà. Il rétorque à sa mère qui tente de communiquer avec lui, je pense... Ça ne t'arrive jamais à toi de penser, tu devrais essayer de temps en temps. Bill Gates, 9 ans, dit à sa mère, je pense, ça ne t'arrive jamais à toi de penser, tu devrais essayer de temps en temps. Ah ! J'adore ça. T'aimes sauf quand ce sera Malo ou Solal. Malo, il me fait un peu ça, Malo. Malo, ça va très vite dans sa tête. Je pense qu'il va, me le dire dans pas longtemps. Un jour, il va. Dis donc, t'as quel âge, papa ? Je sais pas, 50. C'est quoi tes trucs sur Twitter là ? Jamais tu. Tu vois, dans pas longtemps. Sa mère, une des premières femmes membres de conseil d'administration de sociétés cotées, et son père, cofondateur d'un cabinet d'avocats prestigieux, étaient totalement désemparés. Il s'inscrit du coup à une formation d'efficacité parentale, la méthode Gordon, dispensée par la paroisse. Ils étaient croyants. Mais c'est en amenant le préado rebelle chez un psy, voilà, qu'il débloque la situation. Le gamin agressif pose le décor dès le premier rendez-vous. Il dit au psy, je suis en guerre contre mes parents. Voilà. Surprise, après quelques séances, le psy lui donne raison. J'adore. Il explique à Bill Gates qu'il gagnera forcément sa guerre puisqu'il ne vivra pas éternellement sous leur toit et que l'aimeront et le soutiendront toujours quoi qu'il fasse. Donc au lieu de gaspiller son énergie à les combattre, il a tout intérêt à acquérir au plus vite les connaissances, les compétences de son indépendance à venir, lui dit le psy. Et le psy dit aux parents, laissez tomber, c'est lui qui va gagner. Lâchez prise, donnez plus de liberté à votre enfant. Je trouve ça fascinant. En CM2, le corps enseignant le juge attardé et envisage un redoublement. Et pourtant, l'année d'avant, un éducateur avait suggéré de lui faire sauter une classe. Voilà. Il excelle en maths, quand un sujet le passionne, il est capable, comme pour un devoir sur le Delaware, de rendre un dossier de 170 pages. Mais ce gosse qui se balance bizarrement lorsqu'il réfléchit et trouve tout naturel d'apporter un poumon de vache sanguinolent à l'école pour son exposé sur la physiologie faisant s'évanouir un de ses camarades, est un cancre dans toutes les matières, qui ne l'intéresse pas. Malo qui va dire à Samuel, donc t'es parti sur Twitch pour faire des proutes, papa trouve ça mature. Et là je dirais à Malo, il ne faut pas croire ce qu'il y a d'écrit dans tous les journaux. S'il n'est pas tombé amoureux d'un ordinateur à 7 ans comme le veut la légende, l'ordinateur a bien changé sa vie, mais en classe de 4e, voilà, il l'a obligé à penser. Il sanctionnait sans aucune pitié toute facilité intellectuelle, écrit Gates. Donc il parle de l'ordinateur. Merci Jardistream pour cet adorable raid. Merci, j'espère que vous avez passé un moment. Vous êtes sur quoi ? Il exigeait de moi que je sois d'une logique constante et que je prête attention aux détails. Ce programmateur né développe aussi, alors avec deux amis, une version extrêmement primitive des chatbots de l'IA. Nous lui faisons aligner des phrases et nous rions des histoires délirantes qu'il racontait. J'adore. J'adore, j'adore. Attendez, je cherche un truc. Hop, non, c'est là. Non, c'est là. Voilà. Des jardiniers, des jardinières. Vous avez fait des jardiniers, des jardinières. Attendez, c'est génial. Attendez, je suis sûr. Regardez, regardez, regardez. Et regardez, Jardistream. Viens partager mon quotidien de jardinier sur trois terrains différents. Ça a l'air trop bien. Tous les matins de 10h à 13h, je montre mes projets, astuces et expériences de jardinage en direct. Rejoins la communauté, échangeons ensemble pour améliorer nos jardins au naturel. C'est pas trop bien ça ? Je te follow ? Hein ? Hein ?
Les petits melons là qui ont
des petits melons. Moi j'ai un gros melon, mais là il y a des petits melons.
De les rempoter. Vous voyez que même là, si on laisse ce melon en fait là-dedans, et bien regardez, il a commencé à chignonner au fond.
Alors moi, ça m'intéresse qu'on parle de melon.
Donc ok, donc la
et GG, bravo.
Verte. Et tu fais
c'est super.
Jette, rayé.
Vous avez la chaîne Jardistream qui est en haut du chat. Vous n'avez
si
plus qu'à follow.
Récupère les graines d'une de tes courgettes.
GG et merci pour le raid.
Tu as de fortes chances que l'année d'après, ta c'est courgette, super. En fait, elle soit.
Je ne sais plus comment t'arrêter par contre.
Rayée. Pourquoi ?
C'est bon. C'est follow ? Merci les amis. C'est génial. Félicitations. Hop, je reviens à Bill Gates. Bill Gates ne cache rien de ses expériences avec l'acide ou le LSD qu'il consomme pour imiter Paul Allen de 2 ans son aîné. C'est pourtant cet ami hippie, futur cofondateur de Microsoft, qui demande à Harvard de cacher son carnet de chèques pour lui éviter de perdre tout ce qu'il possède de poker. Il y a une addiction au poker. Il avoue son... Pardon. Gates évoque aussi ses râteaux avec les filles. C'est drôle parce qu'on parlait d'une chaîne qui parle beaucoup de râteaux à l'instant. Incroyable. Et ben lui aussi, à un moment, il a beaucoup connu avec les filles et les cours de danse du salon qu'il prend pour essayer d'en rencontrer. Jardin, râteau, filles, tout le monde là, c'est bon ? Ça va trop vite ? Vous me dites. Il avoue son désarroi à l'université où il partage sa chambre à sa demande, en découvrant que certains étudiants sont bien meilleurs que lui en maths. Le seul record qu'il a battu à Harvard, qu'il quitte en 3e année pour développer son entreprise, c'est au dire de la blanchisseuse du campus, celui du nombre de semaines sans laver ses draps. Oui, très bonne remarque dans le chat. Plus tu prends de râteaux en matière amoureuse, et moins... Non, j'ose pas la faire. Non, c'est un peu radical quand même. Merci Jeff Bezos pour le 9e mois. Non, j'assume pas trop. Plus tu prends de râteaux, et moins tu roules de pelle. Je sais pas là. Je sais pas si j'assume là. J'ai un doute. En même temps, c'est très vrai. Non, c'est pour rester dans la thématique de la chaîne qui vient de nous raid là. C'est factuel. Si, ça va. Ça va, ça passe. C'est vrai ? Donc vous êtes cool. Hein. Ouais. Et le pourcentage de chances de finir en brouette ? Ah, je l'ai pas ça. Qu'est brouette ? Brouette de quoi ? Brouette. Là, je n'en ai pas celle-là. La position. Quelle position ? Position de la brouette. Image. C'est bon, vous ne l'avez pas ? Ah bah oui, c'est littéralement c'est une brouette. Mais quel intérêt ? Mais quel intérêt, c'est hyper... À moins que t'aies besoin de porter des trucs en même temps, mais... Quel intérêt ? Hein ? C'est pour faire traverser. Ah, c'est pour faire travailler le cardio? Ok. D'accord. Okay. Je ferme quand même parce que je pourrais revenir dessus par malencontreusement. Ouais, je ferme. Ok. Pour aller faire des courses peut-être, ouais. Je connaissais pas. D'accord, encore après un truc. On devine que toute sa vie, l'ex-enfant a un problème. On parle pas de moi, hein. On parle de Bill Gates. Aura du mal à filtrer ses réactions malgré les efforts de mes parents. Ma sociabilité mettait du temps à se développer, tout comme ma conscience de l'impact que je peux avoir sur les autres. Reconnaît l'homme qui a donné la quasi-totalité de son patrimoine à sa fondation pour l'accès aux soins dans les pays en développement. Ce qui est plutôt ok, quoi. Par une cruelle ironie du sort, Code Source, donc c'est le livre, raconte au fond ses influences initiales, le cheminement qui l'a conduit à consacrer sa fortune à des campagnes de vaccination. Publié au moment où Elon Musk, son successeur en tant qu'homme d'affaires le plus célèbre, le plus riche du monde, pulvérise lui les aides humanitaires de l'État américain avec un cynisme ahurissant. Entre ces deux enfants précoces de la tech, l'un a fini par grandir, mais pas l'autre. Alors, vous êtes plusieurs à critiquer la fondation caritative, là. Alors, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais il faudrait que je bosse. Néono me dit c'est une belle arnaque fiscale, sa fondation. Musk me dit quel gentilhomme ce Bill, sa fondation a fait tellement bien de ses actionnaires. C'est vrai, ça? Merci à Calobob. C'est vrai, ça? Fondation Bill Gates. Votre historique, polémique. La fiche wiki en parle sûrement. Hein. Controverse. Certaines critiques dénoncent toutefois l'implication de la fondation dans la capitale de sociétés responsables de divers problèmes sanitaires humains et de ne pas soutenir les bons moyens de développement. En 2007, le Los Angeles Times fait paraître un article peu flatteur pour la fondation qui l'accuse de placer 95% de ses fonds dans des investissements rémunérateurs gérés par des financiers chargés de diversifier fortement leur portefeuille mais sans directive précise. Le quotidien souligne que certaines de ses initiatives sont contradictoires avec son action philanthropique. Pardon, je fais des rototos, j'ai faim. Cactus me dit la fondation est pourrie jusqu'à l'os. Arte a sorti un très bon reportage là-dessus. Ah ouais. Pictaro, disons que c'est pas 100% désintéressé. Ah ouais. D'accord. Faut que je bosse un peu le sujet, moi. Ok. Le projet soutenu boucle ses entreprises pour évader des taxes. Mais est-ce que ça aide, Jardinus pose la question, est-ce que ça aide quand même gratuitement des gens? Tiens, bah c'est ce que dit Nico. Oui, le système de fondation permet d'esquiver des impôts, etc. Mais du coup, est-ce que ça efface les campagnes de vaccination qui ont mis fin à des maladies dans des pays et sauvé de nombreuses vies? Ah, les deux, quoi. C'est toujours pareil, il fait de l'humanité, on lui reproche, il doit rien faire, on lui reprocherait aussi, ça aide, c'est le principal. Ok, merci Pierrot. Ah, Pierrot, t'es toujours là, Pierrot, j'ai eu peur tout à l'heure. Ok. Bon, on finit rapidement avec de la Formule 1. Puisque c'est le début d'une nouvelle saison. De Formule 1, pour ceux que ça intéresse. Bon, je ne suis pas un grand passionné de Formule 1, mais bon, il y a des petits enjeux. Hein, c'est la une de l'équipe. 100% adrénaline, on dirait un nouveau jeu vidéo en vrai, quoi. Formule 1, Grand Prix d'Australie, c'est le début de la saison. Dimanche matin, donc le Grand Prix d'Australie ouvre le bal d'une saison qui s'annonce disputée et palpitante. L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, côté de Charles Leclerc, pas mal ça, pourrait contrecarrer les plans de Max Verstappen en quête d'un cinquième titre d'affilée du champion du monde Orléans. J'ai tellement hâte d'être à dimanche. Pensez à MMG7F qui est un grand passionné de Formule 1, qui est un soutien de cette chaîne depuis le début. Ouais. Dimanche 5h du mat. Nouvelle donne. Leclerc-Hamilton. Pour le pilote monégasque, l'arrivée très médiatisée du Britannique chez Ferrari a modifié l'ordre établi. et pourrait le changer aussi sur l'année, alors que la saison de F1 débute à Melbourne ce week-end. Pour ceux que ça passionne, c'est à lire dans l'équipe, voilà, avec le paradoxe Verstappen qui est intéressant aussi. Je vais à l'essentiel. Hein. Au port de l'histoire avec un cinquième titre de suite en ligne de mire, c'est ouf en vrai. Le pilote estime que sa Red Bull est trop tendre pour jouer la victoire d'entrée, ce qui n'empêche pas d'afficher un visage détendu jusqu'ici. 6h samedi pour les qualifs. Ok. Et là, vous avez toutes les écuries. Ah ouais, c'est hyper didactique, hyper pédago, regardez. McLaren, donc Lando Norris et Oscar Piastri. Ferrari, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, ça a la gueule. Hein. Red Bull, Verstappen, et l'autre, c'est qui? Liam Lawson. Mercedes, George Russell et Kimi Antonelli, 18 ans. Aston Martin, Fernando Alonso, 43 ans. Lance Stroll, le Canadien. Alpine, Pierre Gasly, le Français, et Jack Doohan, l'Australien. Haas, oh, comme la team Haas, avec Sunday Hannay. Esteban Ocon, Français, Oliver Bierman, Britannique. Quel âge il a? Il a l'air tout jeune. 19 ans. Alonso, toujours compétitif à 43 ans. Ouais, enfin bon, c'est comme moi, je dis compétitif aussi, puis on voit le résultat. Hein. Isaac Hadjar, le Français, et Yuki Tsunoda sont chez Racing Bulls. Comment ça, il y a l'Algérien, le Bilkus? Il y a un pilote algérien? C'est cool, ça, c'est où? Williams, Alexander Albon, c'est un Thaïlandais. Ok. Carlos Sainz, espagnol. Nico Hülkenberg est chez Kicksauber avec Gabriel Portoleto, le Brésilien. Il est où l'Algérien? C'est cool qu'il y ait un pilote algérien, c'est qui? Je cherche le... Bah, je vois pas de drapeau algérien. Hadjar? Franco-algérien? Ah, j'avais pas l'info. Ok. Il est où Hadjar? Là. Ils ont mis français. Isaac Hadjar. 20 ans. Ah oui, j'ai vu des papiers sur lui récemment. Il paraît qu'il est incroyable. Un caractère de fou. Lui-même, il dit j'ai un caractère un petit peu de cochon, mais de toute façon, je pense que pour être pilote de Formule 1, il faut avoir un sacré caractère. J'ai vu plein d'articles sur lui. Sur lui. Il paraît qu'il est très doué. Isaac Hadjar. Il est né à Paris. Pilote automobile franco-algérien, yes. Ancien membre, blablabla. Début en Formule 1 en 2025. Là, c'est son premier trébut dans ses propos. Ouais. Double nationalité franco-algérienne. Il paraît qu'il est assez incroyable. De toute façon, à ce niveau-là, ils sont tous un peu incroyables. Je pense que tu donnes pas un volant en F1 à des gars qui sont pas assez extraordinaires dans leur truc, quoi. Ah, c'était bien ce matin. 3h17 de live. Oh. Adjar, il a fait une esquive de fou en F2 à Monaco. Il a évité un gravissime accident. Okay. C'est vrai, vous avez raison. J'ai pas trop lu d'articles sur les relations franco-algériennes récemment. En fait, j'étais surtout absent les jours où il y avait des articles intéressants sur le sujet. Mais du coup, j'en ai pas trop parlé. Il y a des choses très intéressantes quand j'étais en question pour un champion, notamment. Et ouais, mais à culpa, ouais. Vous avez raison. Je vais essayer de corriger ça. Dès que je trouve un article intéressant sur le sujet. Vous avez raison. Alors, là, j'ai une réunion à 14h30. Pas très loin, en présentiel, donc je vais pouvoir y aller. Qu'est-ce que je vais faire pendant une heure? Je sais pas. Peut-être un petit valo, mais en solo. Quoi, Nini est sur Age of? Bon, allez, on va voir Nini alors. Enfin, on va voir qui est en live. Nini, je l'ai raid déjà, je crois, non? Ah non, non, non! Non, non, ça fait longtemps. Ah non, justement, je voulais la raid. Attendez, il y a Ninion qui est mon invité dimanche dans Simplay, qui est en live actuellement. Le raid, c'est pour Nini. Voilà. Et elle est justement sur Age of Empire, le jeu qu'elle me fait découvrir dimanche à 20h. Donc ça va être un super Simplay. N'oubliez pas que Nicolas, question pour un champion, lance sa chaîne Twitch dimanche à 17h. Que Nini vient à la maison à 20h, ça me plaît, ça va être trop trop bien, et on va la raid, elle est justement sur Edge of Empire, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais qui ne connaît pas Nini, hein, Ouais. Donc on se retrouve ce soir pour du gaming, mais peut-être un petit peu tard, parce que c'est vendredi soir, donc je vais passer du temps avec mon épouse, avec les enfants. Ça va lancer du GTA ce soir, mais à mon avis, pas avant 21h, 22h, quoi. Ok? Prenez soin de vous. Voici Nini. À tout à l'heure. Merci pour ce matin. Je vous aime. J'ai passé un super moment. C'était top. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Et merci pour les subs.
Bon, je vais retourner dans l'autre salle parce que j'ai besoin de communication. Je reviens. Vous pouvez lancer une prochaine prédiction. Je reviens. Bonjour. Ça arrête de qui? Bah, le timing a failli être désastreux, mais j'ai lancé un petit regard sur le chat pour voir ce qui se passait. Merci beaucoup. Ah oui, ok, merci beaucoup. Je me doutais un peu en vrai, mais merci beaucoup Samuel Etienne pour le petit raid. Non, pour le gros raid, pour le très gros raid. Bienvenue à tous. On se retrouve normalement du coup dimanche pour le petit Samplay. Et bah, j'étais en train d'essayer d'avancer un petit peu moi-même sur le jeu et j'ai un peu de mal. Bon, je ferai la communication après, tant pis. Je vais dire bonjour à tout le monde. On vient de la part de Sam. Eh bien, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour le raid. C'est super gentil. Dommage, j'ai plus ma saumon. Désolé. C'est pas moi qui gère ça. Bienvenue tout le monde. Je vais faire un petit retour et me présenter.